Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Et donc, c'était 3-4 et t'en as un qui vient me voir et il me dit juste, est-ce que ça te dérange de descendre au prochain arrêt? Et je dis, attends, il se passe quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, je lui dis, ok, bien sûr.
Donc, ça veut dire que là, en 3 ans, t'es passé de 3000 à 800 000 abonnés.
Ouais, c'est ça, en gros.
Ok, la vache. Est-ce que le Lucas de 2022, il est plus heureux que le Lucas de 2020? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique.
Tu sais que c'est rare les gens qui arrivent à vraiment dire la phrase d'intro.
C'est celle-ci?
Sans faute, ouais, c'est celle-là.
C'est celle-ci? Pour ce podcast à caractère vidéoludique, du coup, mais qui est filmé sur YouTube. Je suis très content aujourd'hui d'avoir Lucas sur le podcast.
Je suis très content d'être là, ouais. Vraiment, ça fait plaisir.
On a deux doigts de faire une blague, des blagues beaufs en fait, du coup, là, parce qu'on est arrivé dans le...
Le setup du tu récupères de Pierre et Ben. Après, j'ai tourné souvent ici, et ce que je disais avant le tournage, là, c'est qu'au final, je pense cette année, j'ai plus tourné que dans le studio finalement. Quasiment, je pense à vérifier, mais j'ai quand même tourné pas mal ici. Et puis voilà, c'est pas hyper intéressant pour commencer le podcast, mais petite anecdote quand même pour le dire.
Tiens, attends, je te rapproche juste un peu.
Ouais, bien sûr.
Comme ça, mais on sera pas mal.
Allez, c'est bon ça. Mais c'est que je suis content de faire ce podcast parce que souvent dans nos vidéos, tu sais, c'est vraiment du divertissement très cuté, etc. Donc on parle rarement de trucs un peu sérieux. Alors que moi, j'adore ça, tu vois. J'adore vraiment que ce soit avec des potes hors caméra, de plein de trucs, enfin de parler de plein de trucs. J'adore ça et je me dis, c'est cool, c'est vraiment intéressant et j'adore aussi écouter des podcasts de ce style-là, tu vois. Et je me dis, je suis content de faire ça.
Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont dire « Ah, ça fait bizarre de voir Lucas poser plus... »
Ouais, bah, c'est possible. Bah, là, je suis quand même à fond, tu vois, même.
Ouais, c'est vrai.
Et oui, non, mais j'adore parler de trucs comme ça. Enfin, je sais pas vraiment de quoi on va parler,
ouais.
Mais trucs un peu plus sérieux, j'imagine. Parce que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de le faire sur nos vidéos, quoi.
Bah, je peux te dire un peu un petit aperçu, comme
et
ça.
La transition
tu
du sommaire.
Tu peux décompresser un petit peu, il n'y a pas de sujet piège. Du coup, on a le même âge quasiment, t'es de 99.
Ouais, c'est ça. 99 aussi ?
Je suis 98, okay. Mais fin de l'année 98, donc... j'ai 23 ans quoi.
Ok.
Ok, toi aussi?
Je viens d'avoir 23. Vas-y.
23, ok.
C'est ça.
Ok.
C'est donc, bizarre.
Ouais. Non, en vrai, ça me fait pas bizarre.
Ah ouais?
Moi, c'est 20, peut-être 25 et sûrement 30, mais.
Ah, je sais pas, le 23, il a fait bizarre en vrai.
Ah ouais?
Plus que le 22 encore, je me suis dit ça va, et le 23, je sais pas, je me suis dit, la transition vers le. Tu vois, ce que tu voyais quand t'étais petit, dans le. Ah ouais, les gens qui ont 23 ans, c'est presque des adultes, tu vois.
Bah, de toute façon, même moi, quand j'étais en 6ème, les 3ème pour moi, c'était des adultes en fait.
C'est vrai aussi. Mais là, 23, je sais pas, il m'a fait un truc le. Enfin, bref, c'est okay. Un débat ça, mais.
Bon, je le rajoute. Attends, je le rajoute dans le sommaire.
Ouais, vas-y.
Et du coup, comme on a à peu près le même âge et que t'es passé aussi par une phase où t'as fait des études,
ouais.
On en parlait, donc une prépa d'ingénieur,
c'est ça.
Que tu as ensuite arrêté pour te lancer à plein temps sur YouTube quand t'es arrivé ici à Maison Grise.
Ouais.
Je voulais qu'on en parle un petit peu de ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de progrès aussi sur YouTube ces dernières années,
ouais.
Et je t'ai récupéré des petites archives entre guillemets qui datent de quelques années et pour voir un petit peu l'évolution parce qu'il y a une vraie évolution sur YouTube et,
ouais, bien sûr.
Et donc c'est intéressant tu vois, de voir cette évolution
ah,
en
ouf,
quelques années
carrément.
Et puis te demander un petit peu ce que tu fais en ce moment, justement profiter de comme on est plus posé et qu'en plus on est en vacances là,
ouais.
C'est le début des vacances, on est bien donc,
bah, vacances YouTube, il n'y a pas trop de vacances, ah, c'est l'atmosphère vacances.
C'est la première question que je voulais te poser.
C'est vrai.
Est-ce que toi tu fais le break en août par exemple?
Non. En fait justement, bah, YouTube ce qui est un peu dur, oui non, c'est que en fait tu prends jamais vraiment de pause à part si t'arrives à prendre beaucoup d'avance et que t'arrives à poster. Mais ce que je veux dire c'est que c'est rare les YouTubeurs qui se disent ok pendant un mois je poste rien. Parce que bah, c'est un peu une tradition de régularité qu'on s'impose aussi nous-mêmes. Et du coup, soit tu prends beaucoup d'avance, ce que j'arrive pas à faire. Du coup, en général, non, je m'autorise 2-3 moments, soit 2-3 week-ends où je pars vraiment. Bon, week-end, en vrai, ça va. Ou là, je pars fin juillet avec des potes. Je pars tous les ans à la Grande Motte, petite anecdote, vers Montpellier, à côté de Montpellier.
À Montpellier, ok.
Et c'est une semaine où là, pour le coup, j'essaye de rien faire de YouTube et juste profiter avec mes potes. Mais je pense que c'est la seule semaine où vraiment je suis off. Sinon le reste du temps je suis toujours un peu là sur YouTube et même cette semaine là à la Grande Motte je sais que je vais être un peu là pour poster la vidéo de la semaine. T'es quand même toujours un peu présent tu vois.
Ouais, faut une connexion wifi quoi.
Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr.
Okay. Et ça c'est chaque année, ça c'est ton rituel?
Ouais, c'est ça, c'est
chaque
ça.
Année la Grande Motte
ouais c'est ça, okay. Et ça c'est cool, mais sinon à part ça c'est vrai que je fais rarement des longues vacances. Même si je pense que ça ferait du bien aussi un peu de déconnecter, mais c'est trop dur en fait de déconnecter YouTube en fait. T'es tout le temps en train de penser à ça, t'as tout le temps un truc à faire. Mais c'est ce qui est kiffant aussi, tu vois.
Donc ça, c'est marrant parce que je t'en ai parlé, t'avais fait un podcast avec McFly Carito il y a deux
ouais,
ans.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est un des seuls que t'as fait depuis. Il y en a pas eu des.
Je pense c'est le seul.
Enfin, c'est celui que j'avais écouté où je t'avais vu pour la première fois en guest dans un grand podcast, on va dire, un podcast long format. Et tu disais justement, on vous parlait de ça, que vous aviez du mal à déconnecter de YouTube et que vous faisiez des avec Camille à ce moment-là dans l'épisode avec le Bouzeux aussi. Et vous disiez qu'avec Camille, parfois, vous faisiez des longues marches de créativité.
Ça, à l'époque.
Et il fallait trouver des concepts pendant la balade et
c'est
tout.
Bah, ça, c'était un truc qu'on avait fait. Bah, la photo derrière toi. Si on était bon, les gens la voient pas à la caméra du coup.
Jamais. Mais attends, je vais faire un petit.
Oh, c'est
je la mettrai pour ceux qui la voient en vidéo.
Mais en gros, c'était on avait fait le confinement ensemble à Maison Grise dans le Pays Basque. Okay. Et à ce moment-là, on l'a pas fait beaucoup de fois. Hein. On avait tenté un truc là. On s'est dit vas-y viens on marche pendant une heure et on essayait de trouver un concept chacun. Et bon, on l'a fait très peu de fois, mais quand on l'a fait, ça a marché. Et je me suis dit c'est marrant de créer un peu différemment. Plutôt un peu le cliché du. En fait, je sais pas ce que les gens s'imaginent, comment on trouve les concepts. Soit ils s'imaginent qu'on est dans une pièce sombre avec un écran d'ordi et on réfléchit à un truc, ce qui peut marcher. Et moi, j'aime bien un peu se faire ça, une activité un peu autre, où surtout t'as pas ton téléphone. Ça, c'est vraiment le vrai truc, je trouve, la base de la créativité. C'est enlever son téléphone. Des fois, je fais ça maintenant chez moi, genre, je mets mon téléphone dans une autre pièce. J'ai acheté un cahier de brouillon ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, et j'ai un stylo et j'essaye de noter juste sur le papier. Et sans le téléphone, c'est vraiment trop fort. C'est le téléphone qui te déconnecte de l'idée de. Tu sais, tu penses à un truc et d'un coup, t'es là en mode bon, attends, je vais faire un tour sur Insta. T'as tout le temps un truc à faire avec le téléphone. Et bon, c'est un autre débat, ça. Je sais même plus la question de base, mais c'est un autre débat, mais pour dire que vraiment le téléphone c'est tellement nocif dans la créativité, c'est un truc de fou.
Ah mais tu sais c'est marrant parce que la dernière vidéo que j'ai faite à ce moment-là où on tourne là, c'est une vidéo sur la détox de dopamine, donc où je passais vraiment maximum une heure par jour sur mon téléphone de consommation de contenu, tu vois. Et c'est une question que je me posais justement parce que toi t'es un gros youtubeur en vrai maintenant, t'es quasiment un million, on se dirige vers le million là quand même.
Ouais, bientôt, c'est cool.
Ouais, t'as bien monté je trouve.
C'est gentil.
C'est cool et justement je me demandais quel était ton rapport à toi en tant que youtubeur qui professionnel, tu vois, t'en fais ton métier. Justement maintenant tu es revenu au carnet de brouillon et
J'essaye en vrai je dis ça mais j'arrive rarement justement parce que je suis trop mais comme beaucoup de gens même youtubeurs ou pas je pense que ceux qui regardent la vidéo c'est pareil on est tellement accro au téléphone c'est un truc de fou en fait et je vois que ça impacte beaucoup moi dans la concentration déjà c'est fou au niveau de concentration c'est tu restes 10 minutes sur une tâche et direct dès que tu as réussi ta tâche ou t'as un truc comme ça t'as envie de te récompenser en disant ok attends je fais une mini pause téléphone tu sors ton téléphone tu vas sur Insta ou Twitter ou je sais pas quoi. Et c'est fou comment ça déconcentre. Et c'est évidemment trop bien, pour plein de raisons, on connaît tous les apports que ça amène. Mais derrière, je trouve que sur le mental, la façon de réfléchir et tout, c'est tellement nocif. Et je sais pas ce que t'en as tiré ton expérience d'une heure sur le téléphone, mais je pense que ça te libère tellement de temps, on va dire de temps physique, tu peux faire d'autres choses, mais même de temps à penser à autre chose, à te concentrer. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais...
Bah, la première réflexion que je me suis faite, c'est que j'avais l'impression d'avoir vraiment plus de temps dans une journée.
Ouais.
Truc un peu de base, mais tout le monde te dira ça, en fait. Hein, vraiment, c'est... Et quand je vois, par exemple, mes grands-parents, quand je passe des journées chez mes grands-parents, qui, eux, n'ont pas du tout le même mode de vie, et tu sens que la maison n'est pas connectée, quoi.
Ouais.
Tu sens que dans l'ambiance, y a la télé, et c'est tout, quoi, tu vois, un peu. Et quand je me rappelle que quand j'étais chez eux et que je passais une journée chez eux, j'avais vraiment l'impression que la journée passait plus vite, tu vois.
Plus vite qu'avant, ouais.
Non, plus vite dans le sens... non, du temps que ça passait moins vite. Le temps s'arrêtait un petit peu.
Okay.
Et je me rappelle que chez eux, le midi 16h, par exemple, il passait long. C'est long, tu vois. Alors, c'est pas contre mes grands-parents, c'est des discussions intéressantes, tu vois. Mais c'est vrai que je trouvais que le temps s'arrêtait un petit peu.
Ouais.
Et moi, quand j'ai fait cette expérience, 2 heures, pour moi, c'était beaucoup.
Ouais, sans téléphone, c'est énorme.
Je me disais 2 heures, je peux faire des trucs.
Et surtout, 2 heures sans regarder une seule fois son téléphone, c'est tout con, mais c'est énorme en fait, quand tu penses. Enfin, malheureusement, c'est devenu énorme quoi.
Ouais.
Et surtout, ce qui est problématique, je trouve, d'un point de vue créatif, c'est que je trouve qu'on est le plus créatif quand on s'ennuie. Tu sais, c'est vraiment le truc là où ton cerveau il se dit ok, j'ai rien d'autre à faire, je peux juste à penser à la création. Et le problème, c'est qu'avec le téléphone, on n'a plus du tout l'ennui en fait.
Ouais.
C'est dès que tu as 2 minutes à tuer, je sais pas, tu es dans le métro, même pour 2 stations de métro, direct, tu sors ton téléphone. Et tu vas sur Insta, Twitter, TikTok, enfin t'as 1000 trucs pour te divertir. Et du coup t'as plus ce moment là où tu t'ennuies. Et ton cerveau il se dit ok, bah à partir de là je peux créer. Et c'est pour ça moi j'essaie maintenant de m'imposer des phases où je m'ennuie. Donc typiquement le truc avec le cahier de brouillon et le stylo c'est un peu ça. C'est j'essaye de m'ennuyer. Quand je reprends l'exemple du coup avec Camille de la balade un peu créative qu'on disait. C'est qu'en fait tu marches, tu rates pas ton téléphone et t'as que ça à faire en fait. À réfléchir, à penser à des idées ou quoi. Et pareil je suis très souvent le plus créatif sous la douche. Parce qu'en fait, sous la douche, t'as pas ton téléphone, t'as rien d'autre à faire. Et du coup, ton cerveau, c'est là vraiment où il est plus créatif parce que tu t'ennuies en fait. Et ça, c'est vraiment un vrai truc que je remarque. Il faut réussir à s'ennuyer, en fait. Et c'est dur à faire, mais je pense que tous les mecs, les plus grands artistes de l'époque, en tout cas, attends, je me compare pas du tout à tout ça, mais tous les mecs à l'époque, même.
Lucas Studio. Ah non, je te...
tellement pas, tu vois. Je pense que c'est un truc que beaucoup de gens faisaient à l'époque, des grands peintres ou quoi. Ils essaient vraiment de s'ennuyer, notamment, je pense, dans la peinture, il y a aussi ce truc-là, c'est de s'ennuyer pour être le plus créatif. Et c'est un truc qu'il faut qu'on réussisse à faire pour l'être, quoi.
C'est vrai. Bah, je suis 100% d'accord et c'est cool que t'en parles, tu vois. Parce que
pourtant, j'arrive pas, hein. Je te dis ça, mais je galère de fou.
Enfin, l'important, c'est de s'améliorer. C'est pour ça que parfois, se dire qu'on va passer de 6 heures par jour, comme la plupart des personnes, à 1 heure, c'est un peu.
C'est extrême.
C'est un peu extrême, ouais. Moi, je fonctionne comme ça, donc c'est pour ça que j'ai fait expérience comme ça.
Ouais.
Mais en vrai, je pense que déjà, c'est ce que je disais, tu divises par 2 ton temps d'écran.
Ouais.
Déjà, si tu vas avoir que tu sois à 8 heures et que tu passes à 4 heures ou à 4 et que tu passes à 2, tu vas avoir vraiment une grosse différence.
Et je pense qu'il faut surtout se mettre des cycles où, pendant une heure, tu dis là, je rate pas mon téléphone, quoi. C'est vraiment une heure et après, limite, tu te fais 10 minutes de pause, c'est pas grave. Mais vraiment que cette heure-là soit pas impactée par ok, je rate mon téléphone par-ci par-là et là, t'es fini, quoi, en fait.
Souvent t'as la petite voix aussi justement dont tu parlais quand t'es pas sur ton téléphone, une petite voix qui arrive et qui te dit prends ton téléphone, il se passe un truc important.
Alors que non,
si tu résistes à cette première petite voix, après normalement tu vas passer, t'as la prochaine vague qui arrive, mais dans 40 minutes, quoi.
C'est ça.
Tu seras plus tranquille.
Mais tu sais que c'est vraiment une vraie drogue, en fait. Quand tu penses ça, tu transposes ça par exemple sur une cigarette, c'est le même truc. Je pense moi je fume pas, tu vois, mais les fumeurs, je crois ils ont ce truc là de ok, là j'ai envie de fumer. Et le plus dur, c'est de résister à ce premier appel de « je vais fumer ». Et en fait, c'est vraiment, quand tu compares à ça, c'est juste que le téléphone, on s'en rend moins compte, mais c'est une vraie drogue et ça impacte aussi différemment et c'est moins nocif, on va dire, pour la santé. Mais je pense que tout ce qui est concentration et tout, c'est vraiment une vraie drogue impactante, quoi.
C'était souvent, t'as utilisé le mot rappel, c'était souvent ça qui était utilisé, ce mot qui était utilisé dans toutes les drogues, quand j'ai fait les recherches pour la vidéo. Et toutes les drogues que tu regardes, les drogues dures, il y a des rappels. Tout ce qui te rappelle la drogue en question va te donner envie de consommer ensuite la drogue. Donc, le téléphone, c'est, je sais pas, c'est des pulsions ou c'est une idée dans ta tête qu'il se passe un truc intéressant sur ton téléphone. La cigarette, c'est l'odeur, c'est les gens, c'est la pause café et clope, la fameuse, tu vois. Donc, j'imagine qu'il y a plein de rappels et c'est dur,
ces rappels. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut pas utiliser son téléphone parce que je suis le premier à le faire et c'est trop bien. C'est juste, je pense, qu'il faut s'accorder des temps où on se dit, ok, on le rate pas. Et après, d'ailleurs, tu te fais un kiff, tu te rates une heure de vidéo YouTube, tu fais ce que tu veux. Mais je pense qu'il faut vraiment segmenter ça et pas que tout soit mélangé, je pense. C'est un truc là. Et je dis ça, mais j'y arrive pas. Je vais essayer d'y arriver, mais c'est dur.
C'est cool déjà de dire que t'essayes, tu vois. Et que surtout, en fait, il faut trouver des avantages. Parce que si tu veux juste arrêter pour arrêter,
c'est ça.
Et qu'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de clé après, en fait, toi, t'as la créativité que tu sens meilleure après.
Ouais.
Ça, c'est un avantage énorme pour toi, justement. Ouais. Donc ça te donne envie. Il faut trouver un truc qui nous donne envie, quoi.
Une
meilleure vie sociale, plus de temps avec les amis.
La concentration, c'était plus simple que ça, ce truc-là.
Ok.
Mais vous pouvez utiliser vos téléphones, ne vous inquiétez pas. C'est le pas docteur, non plus diable, c'est
le
très
docteur
bien.
Lucas
Studio, c'est très bien, vraiment.
Vous prescrit une heure à deux heures, ça vous empêchera pas d'être heureux, quoi.
Bien sûr.
Ok.
Oh, même plus que ça, ne vous inquiétez pas.
On mettra les sources en description de la vidéo. Mais du coup, je te pose la question parce qu'à la base, je te demandais si tu faisais ta pause en août.
Ah oui, c'est vrai, on a
parce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de, je vois beaucoup, moi je me posais la question, est-ce que je fais une pause en août? Je vois pas mal de youtubeurs sur Instagram justement qui disent on va réduire le rythme les prochains mois ou qui partent en vacances, etc.
Ouais.
Donc toi non, tu vas rester.
Non mais finalement à des moments j'aimerais bien, tu vois. Des fois je me dis, je pense que tu pars vraiment 2-3 semaines déconnecté et tu reviens vraiment avec des envies différentes. Parce que YouTube, tu sais, des fois, t'es un peu dans ce truc de ok, je vais faire une vidéo par semaine parce que t'en as envie et t'aimes bien ce rythme imposé, tu vois. Mais des fois, t'arrives moins à prendre du recul, à dire ok, tu sais, à réfléchir à des formats vraiment différents, à des envies différentes ou quoi, tellement t'es un peu à fond dans le truc. Et je pense que des fois, prendre vraiment plus de recul pendant 2-3 semaines ou même un mois, je pense que ça peut être pas mal. Après, j'y arriverai pas.
C'est mort.
Et pourquoi pas un jour, j'aimerais bien tenter, quoi.
Ok.
Mais déjà, j'aimerais bien tenter un jour, en plus, j'ai réflexion en ce moment. Partir un week-end, déjà un week-end tranquille, mais genre couper du téléphone déjà. Voilà, sans relancer le truc du téléphone, mais c'est plus dans le truc de un week-end où t'es vraiment déconnecté et pour voir ce que ça fait, à quoi tu penses, à quelles sont les idées que tu développes, des trucs comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Et pourquoi pas faire ça à un moment
Je pense en vrai que si tu prends déjà 3 jours, 4 jours de déconnexion, tu vas avoir un ressenti d'une semaine facile.
Ouais, alors c'est sûr. Alors,
2 semaines, ça peut nous paraître beaucoup, mais je pense que déjà quelques jours, ta semaine à la grande.
Je pense
que
2 semaines, c'est plus, tu pars avec des potes, t'as plein de trucs à faire. Si tu pars vraiment solo sans téléphone, déjà 2 jours, je pense, c'est sacrément long.
Ok. Donc là, on tourne début juillet.
Ouais.
Et donc là, les prochaines semaines, tu te considères pas en vacances, donc tu continues les vidéos une fois par semaine.
C'est ça, ouais.
Ok.
Et puis en vrai, c'est cool. Après, j'aime bien, moi j'adore l'ambiance de l'été. même si je suis à Maison Grise et tout, bon, on a quand même la chance, c'est quand même un taf vraiment cool. Et c'est tellement une bonne ambiance et tout que même l'été, je me dis, c'est. J'aime bien. Alors, je viens du sud, donc j'adore être dans le sud pour l'été.
Ok, tu viens d'où ?
De Montélimar, à côté, à Savas.
Si je dis les nougats, c'est un petit peu chiant, c'est toujours le truc qu'on dit.
Bah,
ou...
tout le temps on me dit ça, mais j'accepte. Hein, c'est vraiment le cliché.
J'accepte.
C'est le cliché, tu vois. Mais j'ai grandi 20 ans dans le sud et en fait, j'adore tellement l'ambiance du sud que forcément, ça manque un peu l'été. Mais en même temps, Paris l'été, je trouve ça vraiment cool. Il y a une ambiance assez sympa. Ça vaut pas le sud en vrai. Parce que l'été, là, vers Montélimar et tout, c'est tellement incroyable. Mais tout ça pour dire, je sais même plus de quoi je parlais. À chaque fois, je dérive sur
le truc. C'est pas grave. Mais du coup, j'y suis allé déjà à l'usine de Montélimar.
C'est
pas juste la blague, les nougats. Okay. Je suis allé voir l'usine, j'ai pris un petit paquet souvenir de nougats. Ouais. Mais je me rappelle, j'y suis allé. Et donc, oui, l'été, ambiance incroyable. Et à Paris, il y a moins de monde. Donc, c'est aussi ça qui.
Ouais, et puis même Paris l'été, je trouve, il y a un mood un peu différent sur les quais, les trucs comme ça. Mmh. C'est aussi cool. Et à Maison Grise, c'est vraiment bonne ambiance. C'est différent. Il y a beaucoup moins de gens parce que tout le monde part un peu en vacances en différé. Mais j'aime bien aussi l'ambiance, c'est cool.
Ok, bah, c'était justement ce sujet que je voulais aborder à Maison Grise.
Ouais.
Donc là, on est à Maison Grise, on est dans les locaux. Ça fait deux ans et demi que tu es.
C'est 3 ans déjà.
3 ans maintenant.
Là, dans un mois, ça fera 3 ans.
Ok.
C'est un truc de fou.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée ici ?
Ouais.
Comment tu t'es senti ? Parce que j'imagine que c'est quand même une grosse équipe. Tu disais avant que Pierre Cross et tu regardais ses vidéos en tant que spectateur.
Ouais.
Comment est-ce que ça s'est passé ton arrivée ici et comment tu t'es senti ?
Comment je suis arrivé ici ou comment je me sens ?
Alors, il me semble que c'était en faisant une vidéo avec Pierre.
C'est ça. Ouais.
Ok, donc comment est-ce que tu as intégré ? Comment est-ce qu'on t'a proposé de venir ?
Ouais.
Et comment ça s'est passé tes premières semaines ici quand t'es arrivé et que t'as découvert tous les locaux ?
Ouais, bah en gros, alors donc à l'époque c'était en 2019, donc il y a 3 ans. Et donc ouais, j'avais fait un tournage en tant qu'abonné avec Pierre. Après, bon, c'est une longue histoire, mais pour résumer un peu, je lui avais envoyé le lien de ma chaîne YouTube en mode bah vas-y, si t'as le temps de regarder ou quoi. Moi, en parallèle, du coup, je faisais mes études d'ingénieur à ce moment-là. Et pendant plusieurs mois, j'avais pas eu trop de nouvelles. Et un jour, c'était juste après un jour d'examen, en fin mai, j'avais reçu un DM de Pierre, mais je l'avais parlé une fois dans ma vie depuis. Il me disait « Salut, comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens et tout depuis ?» Et il m'a proposé de venir sur Paris pour reparler en fait. Et à ce moment, je savais pas du tout ce qu'il allait me dire. Du coup, évidemment, j'étais trop chaud. Donc, j'étais monté sur Paris. Et à ce moment-là, en gros, il m'avait proposé de faire un espèce de stage. Je sais plus si j'en parlais dans la vidéo avec McFly Carito, ça, dans le podcast. Mais c'était un espèce de stage sur 2-3 semaines. Avec deux autres personnes, il y avait le One Man Show à l'époque et Valentin Squirrelo. Et en fait, c'était un espèce de. Alors, stage, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est pendant 2 semaines, on faisait. Il nous donnait un peu des espèces d'exercices, mais pareil, j'aime pas trop le mot. Où en gros, on faisait une vidéo par jour sur des thèmes un peu différents. Et c'était trop bonne ambiance, tu vois. C'était genre, faites un sketch sur tel truc et vous avez une journée pour le faire. Et à la fin, si on réussissait pas, au pire, c'est pas grave. Et à la fin, lui, nous donnait un peu son. Enfin, on lui montrait la vidéo, il nous faisait ses retours et tout, tu vois. Et en gros, à l'issue de ce stage, en vrai, ça s'est bien passé. C'était aussi, je pense, pour voir comment on se débrouillait au niveau des vidéos, comment ça se passait avec l'équipe et tout. Et à la fin de ça, il m'a proposé en gros de rester si je voulais. Et donc moi, j'ai fait le choix parce que soit j'entrais dans la 3e année d'école d'ingénieur, ou soit je faisais ça, sachant qu'à l'époque, j'avais 5000 abonnés, tu vois. Donc j'avais 0 okay. euro de revenus. Hein. J'ai même pas monétisé mes vidéos à l'époque.
Ah oui.
Et je me suis dit, je savais que si je disais non, j'allais trop m'en vouloir toute ma vie. Donc j'ai dit oui parce qu'en fait j'avais trop envie discussion avec les parents un peu longue et tout évidemment mais j'aurais dit faites moi confiance, j'ai trop envie de faire ça en plus et donc du coup j'ai intégré Maison Grise à ce moment là. À l'époque j'étais à mi-temps en prod, je faisais chargé de prod à mi-temps notamment pour sa chaîne secondaire à Pierre à l'époque, donc Pierre Cross volume 2. Donc à l'époque il faisait beaucoup encore de jeux de société etc. Et donc moi je préparais un peu les trucs tu sais, 2 jours par semaine et le reste du temps je faisais mes vidéos. Et donc comment ça se passait à l'époque ? Alors c'était pas du tout aussi gros. Là on est 30 à Maison Grise, je pense, un truc comme ça. Je suis pas sûr mais je pense qu'on est 30. Et à l'époque on devait être 6 ou 7, donc c'était vraiment une ambiance différente et c'était beaucoup plus petit. Donc j'étais très vite plus facilement intégré, on va dire. Mais c'est vrai que du coup j'ai pu constater l'évolution de Maison Grise avec tous les gens qui sont venus au fur et à mesure. Et c'est ouf comment l'ambiance évolue. Bon ça reste trop bien, mais je veux dire c'est vraiment différent, forcément de passer de 6 à 30 personnes. Et donc l'intégration s'est bien faite et c'était vraiment une ambiance un peu différente mais trop cool aussi. Mais c'était déjà il y a 3 ans quoi, c'était un truc de fou.
Donc en soi, dans Maison Grise, t'es un ancien en fait de Maison Grise.
Bah maintenant, ouais, finalement, ouais. Maintenant, ça fait un peu ça et c'est ça qui est bizarre de me dire ça. mais même, c'est marrant, tu vois, quand je vois par exemple 2 semaines après mon arrivée, il y a Quentin de Maison Grise qui est arrivé. Pour ceux qui connaissent, il fait souvent des vidéos avec moi et tout. Et c'est marrant de se dire que ouais, j'ai vu au final l'arrivée successive de plein de gens que les gens connaissent bien maintenant dans nos vidéos. Et c'est fou de voir ça et l'ancien de Maison Grise, ça me fait rire de dire ça, mais c'est presque ça.
C'est vrai du coup, ouais, parce que
bah un peu ouais, et c'est marrant du coup.
Ok, donc c'est justement une, cette période de transition entre la fin de tes études d'ingénieur, ta deuxième année,
ouais.
et ce moment où Pierre te propose de venir à Maison Grise qui est intéressant pour moi parce que c'est un peu un saut dans le vide.
Ouais, c'est un peu ça.
Et tu disais que les études te plaisaient pas forcément à ce moment-là.
Bah en fait, moi j'ai toujours fait ingénieur un peu par défaut. Alors c'est un plus long débat, mais c'est un peu par, par une espèce de petite pression sociale inconsciente, je trouve. De, en fait, au lycée, enfin collège-lycée, j'avais plutôt des bons résultats. Et donc à ce moment-là, tu sais, t'as un peu la pression de te dire, c'est une pression qui vient un peu, je pense, des parents et même de la société en général, de dire si t'as des bons résultats, faut que tu fasses des grandes études, une prépa ou je sais pas quoi. Et du coup, j'avais un peu ce truc-là en tête, alors qu'au final, moi, depuis longtemps, je faisais des vidéos, et c'était un peu mon rêve de me dire, si je peux être youtubeur, c'est incroyable. Bon, à l'époque, j'avais, tu vois, 3000 abonnés, donc c'était impossible. Et t'as pas d'école de YouTube, t'as pas de formation de ça. T'as des formations un peu dans l'audiovisuel, mais c'était pas vraiment le même truc. Et du coup, un peu avec cette espèce, je trouve, de pression sociale qu'il y avait, je me suis dit, ok, bah, je vais faire une école d'ingé. Bon, en vrai, ça me plaisait un petit peu dans le sens où c'était un peu orienté informatique, et à l'époque, j'aimais bien ça quand même. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Mais je l'ai faite en me disant, j'ai pas envie de la finir en fait. C'est très paradoxal. C'est parce que je l'ai quand même fait à fond, je travaillais de fou, j'ai des bons résultats en école d'ingé. Mais je me disais, en fait, j'ai pas envie de la faire. Et je fais YouTube à côté. Et dès que ça marche YouTube, j'arrête l'école pour faire ça. Donc c'est très paradoxal en fait. Tu sais, j'ai pas envie, mais quand même, je le fais à fond, tout en faisant YouTube à fond à côté. Bon, j'avais zéro vie sociale, hein, je faisais que ça. Mais du coup, c'est un peu paradoxal. Mais ouais, voilà, j'ai. Déjà, c'était deux années qui étaient quand même cool. Bah, j'ai rencontré des gens cool. Bon, ça me plaisait pas tant que ça en, vraiment en termes scolaires, mais je regrette pas vraiment. Et en plus, ça a quand même. J'étais quand même content d'avoir vécu un peu deux années de vie étudiante, même si j'avais pas fait les clichés des soirées étudiantes, des trucs comme ça, parce que je faisais beaucoup de taf à côté. Mais je suis quand même content d'avoir vécu ça parce que je pense que c'est cool de vivre ça dans sa vie. Deux années un peu d'études supérieures, les trucs comme ça. Et ça m'a sûrement appris plein de trucs de méthodologie de travail, de tu sais, c'est la première fois que je vivais seul dans un appart sans mes parents et tout. Donc, mine de rien, ça apprend aussi un peu. Et ça m'a fait une transition de la campagne drômoise à Paris d'un coup. Enfin, j'ai fait, du coup, j'étais à Valence à cette époque-là. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un peu une...
Le Valence français. Le Valence français.
Valence français, c'est
à
ça.
À côté ouais. de Lyon.
Ouais, c'est ça. Okay. C'est plus à côté de Montélimar, du coup. Mais,
oui, c'est vrai. Okay.
Mais c'est ça, c'est un peu un entre-deux qui aussi m'a aidé. Enfin, c'est quand même cool. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment appris, quoi.
Ok. D'ailleurs, ça, c'est un vrai sujet, ça. Le fait de vivre avec ses parents et puis ensuite de vivre seul en appartement.
Moi, j'ai bien aimé, ouais. Enfin, après, okay. En fait, c'est plutôt que je rentrais tous les week-ends chez mes parents. Donc, je pense aussi que c'est un peu différent. Okay. Mais ouais. Non, franchement, ça m'a pas trop.
Il y en a qui aiment bien, il y en a qui sont très tristes.
Ouais,
j'imagine. Il y a beaucoup, un peu de tout, mais ouais. C'est toujours marrant d'en parler un petit peu, je trouve, parce que.
Je pense que dans tous les cas, faut le vivre. Parce que ceux qui ont un peu peur de ça, moi, j'ai des potes, tu vois, ils vivent encore chez leurs parents parce qu'ils faisaient leurs études à côté. Je pense, alors évidemment, c'est cool, mais c'est vraiment une étape de vie à faire, vraiment. Et parce que ça apprend beaucoup de choses, enfin c'est tout con, mais je trouve que ça apprend beaucoup de choses de vivre seul, et c'est des expériences à tenter. Et bah après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est vraiment une étape de vie importante à franchir, et c'est cool de le faire à 18 ans. Bah après, ceux qui le font à 20 ans, à 25 ans, il n'y a pas d'âge, hein, mais je trouve que c'est vraiment important de faire ça, quoi.
Ouais, bah ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui vivent très bien, il y en a qui doivent se dire putain, faut que j'apprenne à faire à manger maintenant.
Ah, ça, j'y arrivais pas. Ça, j'achetais des plats préparés et c'était fini.
Ok, ok. Et comment ça s'est passé donc? Là, tu arrives à Maison Grise,
ouais.
Ta décision est prise.
C'est
pour
ça.
Toi, c'était un peu une évidence quand même que ça allait être Maison Grise et pas une troisième année en école d'ingénieur.
Ouais, ouais.
Il y avait quand même le cœur qui parlait un petit peu.
Bah, en fait, à une époque, je m'en souviens, on avait parlé avec Pierre de ça, avant que je quitte mon école, de sinon j'essaie de continuer les deux, c'est-à-dire je fais mon école, mais en même temps, à des moments, je viens à Maison Grise et en fait, c'était impossible parce que tu vois, c'est à 3 heures en train. Si j'étais venu, ça aurait été le week-end, donc il n'y aurait personne à Maison Grise, enfin, ça aurait pas marché en fait. Et du coup, c'était un peu une décision. Bah moi, je savais que je le voulais. Je savais, en fait, je pense que ça aurait été dur si en même temps j'avais envie de continuer mon école et je me suis dit, ok, je vais vraiment être ingénieur en même temps. Là, je savais, c'est pas vraiment ce que je voulais. Et je me suis dit, bon, au pire du pire, même si ça marche pas, bon, déjà, je regretterai pas parce que j'aurais tenté. Et au pire, bah, tu peux reprendre des études à côté. En fait, c'est un autre truc aussi que je m'étais dit pendant mes études, c'est que je pense que j'ai fait ingénieur, mais si je devais refaire des études maintenant, j'aurais plutôt fait un truc dans le commerce. Un peu plus marketing et des trucs comme ça, je pense que c'est ce qui m'a intéressé le plus, donc je pense, tu vois, j'avais pas de regret non plus de me dire au pire j'aurais fait autre chose, mais en fait c'est marrant parce que c'est très paradoxal, j'avais un peu la vision de me dire il fallait que je le fasse parce que j'étais persuadé que ça allait marcher si je le faisais à fond, quoi. Tu sais, c'est un peu ce truc là de, tu sais, je crois pas au destin ou un truc comme ça, mais c'est plus j'étais en mode genre je voyais pas ma vie sans que ça marche YouTube. C'est pas du tout un truc prétentieux ou quoi, c'est que j'étais tellement passionné de ça depuis que j'étais petit je me suis dit vraiment il faut que je puisse faire ça de toutes mes journées quoi. T'sais, j'étais tellement à fond, j'adorais tellement ça depuis que j'avais 11 ans. Et du coup, je me suis dit, c'est évident, quoi. Si je le tente pas là, je vais la regretter tellement fort. Donc je me suis dit, ok, go tenter, et puis on verra bien, quoi.
Ok, ouais, ça me parle beaucoup, et c'est un truc que j'ai entendu beaucoup de fois. Hein. Je me demande d'ailleurs si justement, il y a vraiment deux catégories de personnes, les personnes qui sentent ça au fond d'elles, que c'est ça et ouais. Rien d'autre, et les autres qui n'ont pas ça, mais qui vont l'avoir pour une autre activité aussi. Je me demande si toutes les personnes ont un truc au fond d'elles, où elles sont sûres que ça, c'est ce qu'elles doivent faire pour une telle activité, tu vois.
Je sais pas, je pense que tout le monde l'a, mais que tout le monde le sait pas vraiment. Je pense que tu sais, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, et même sûrement des gens qui nous regardent ou quoi. Je pense que tout le monde a un truc comme ça, mais qui l'a pas forcément trouvé. Tu sais, là, parce que par exemple, YouTube, je trouve que c'était plus facile de savoir que je voulais faire ça, parce que tout le monde, tous les jeunes regardaient YouTube, et comment dire, c'est un truc très connu. Donc forcément, j'allais un jour voir des vidéos YouTube et me dire, ok, j'adore ça et j'ai envie de faire ça. Mais par exemple, ça peut être des gens peut-être qui ont une passion pour être ébéniste, par exemple, ou je sais pas. Et tu sais, c'est des trucs que tu tentes beaucoup moins dans la vie. Donc tant que t'as pas tenté, tu te dis pas, ah ok, c'est ça que je vais faire. Mais je pense que tout le monde a ce truc-là. Soit une espèce de passion que tu développes pendant l'enfance, mais tu sais pas vraiment quand tu la développes. Tu sais, tu peux regarder un film où tu vois un mec qui est ébéniste et tu te dis, ah ouais, ça a l'air trop bien. Mais finalement, tu repenses pas plus tard dans la vie. Et si un jour tu le testes, tu te dis, ok, c'est ça que je vais faire. Donc je pense que tout le monde a ça, mais qu'on le sait pas forcément. Et je pense qu'un vrai truc d'ailleurs pour savoir ce qu'on veut faire, c'est, je reviens sur un peu la thématique du début, c'est l'ennui. C'est quand tu t'ennuies, tu vas essayer de vous ennuyer et vous voyez ce que vous voulez faire quand vous ennuyez en fait. Et tu dis ok, ce que j'ai envie de faire, imagine c'est, je sais pas, peindre un tableau ou j'en sais rien, ou je sais pas, calculer, j'en sais rien. Enfin tu sais, plein de trucs dans des thématiques différentes. Et ce truc là que t'as envie de faire quand tu t'ennuies, ça veut dire que t'as vraiment envie de le faire, je trouve. Et essaye de voir si t'as pas un métier qui peut relier à ça quoi. En fait, ouais, c'est un peu utopiste hein, de dire ça. Mais...
Non, c'est vrai, je pense que ce qui fait peur avec l'ennui, c'est qu'on pense vraiment que c'est chiant en fait. Ouais. Que tu vas rien ressentir. Alors que pour avoir vécu pas mal de phases d'ennui volontaire, justement,
ouais.
Je parle pas. En fait, on pense à l'ennui en salle de classe par exemple.
Ouais.
Où on est là, il reste 3 heures de cours, je m'ennuie, tu vois. Et ça, c'est horrible parce que c'est vrai que t'es bloqué physiquement, tu peux pas sortir, tu peux pas te lever.
Ah, tu subis quoi.
C'est... Ouais. Alors que l'ennui chez toi ou en balade dehors, et c'est toi qui te force à t'ennuyer,
ouais.
Peut-être que tu vas t'ennuyer au début parce qu'en effet t'es pas stimulé par un contenu ou par une vidéo ou un truc comme ça,
ouais.
Mais après tu vas avoir des pensées qui vont venir, tu vas pouvoir jongler un petit peu avec, tu vas pouvoir jouer avec des pensées, visualiser des trucs te rappeler des trucs que t'avais oublié, des trucs que t'as besoin de faire. En fait c'est pas vraiment, tu t'ennuies pas vraiment, tu t'ennuies peut-être au début,
ouais.
Parce que le contraste est fort entre un truc très stimulant et l'ennui volontaire, mais en vrai, après, tu peux y trouver du plaisir. Hein,
d'ailleurs, c'est peut-être pas spécialement de l'ennui, on appelle ça l'ennui, mais c'est juste l'absence d'activité. Quoi.
La réflexion, ouais.
Et ça marche bien, ouais, tu vas faire un tour dehors, tu laisses ton téléphone chez toi, tu te fais un tour dans un quartier que tu connais bien, ou voilà, c'est à la campagne, dans un chemin que tu connais bien et tout. Et là, tu vois un peu à quoi tu penses, à qu'est-ce qui te fait envie et tout. Je pense que c'est peut-être un peu utopiste, hein, parce que je me rends pas compte à quel point ça peut être beaucoup plus dur que ça. Mais soit ça, ou soit juste, rader plein de trucs. Tu sais, rien que rader des films ou des vidéos, des trucs comme ça, de voir plein de via des personnages ou des trucs comme ça, plein de façons de vivre différentes. Des fois, ça peut t'inspirer. Tu sais, je pense qu'il y a plein de gens, ils ont radé. Tu sais, je pense que c'est ça un peu chez des jeunes qui radent des films policiers et qui veulent devenir policiers derrière. Bon, là, c'est un peu pareil, c'est un métier peut-être très connu dans les films, donc c'est le premier qui vient en tête. Mais je reprends le truc d'ébéniste, c'est vraiment un métier. Par exemple, c'est mon frère qui voulait faire ça à une époque, c'est pour ça que je donne cet exemple. Et tu vois, il a dû voir ça dans un film et se dire, ah ouais, ça a l'air trop bien, et tu penses pas forcément, alors qu'autant c'est peut-être ton métier de rêve et quelqu'un va être passionné par ça, quoi.
Okay. Est-ce que parfois tu croises quelqu'un qui a à peu près ton âge qui a continué par exemple des études d'ingénieur, ou qui est un peu t'es dans le métro, tu vois un gars qui est en chemise et qui aurait peut-être le profil d'être en école d'ingénieur,
ouais.
Tu te dis, ça aurait pu être moi. Et tu repenses à ta position et t'es content d'avoir fait ce choix-là.
Pas tant que ça, parce que...
Tu prends pas le métro?
si, pour le coup, si, beaucoup. si, beaucoup. Mais en fait, non, par contre, ce qui m'arrive, ce qui est assez marrant, c'est depuis que j'ai quitté l'école, genre une fois tous les 2-3 mois, je fais un rêve comme quoi je passe l'examen d'ingénieur. Et c'est un vrai truc, un truc qui me revient à chaque fois. Et tu sais, à chaque fois je fais l'examen et je me dis, attends, mais c'est pas possible, ça fait 2 ans que je suis plus dans l'école, je vais jamais réussir. Et effectivement, je bloque devant l'examen. Et en me réveillant, je suis là en mode, ah ouais, c'est vrai que c'est un rêve, j'ai oublié que je suis plus dans l'école. Et je te jure, ça m'arrive tous les... Enfin, j'arrive pas à le quantifier si c'est tous les 2-3 mois, mais ça m'arrive assez régulièrement. Et quand je me réveille, je suis en mode, ah bah c'est vrai qu'en fait, je suis plus dans l'école, donc...
faire une vidéo.
Tranquille, c'est pas grave, ouais, c'est ça, c'est un peu ça.
Oh, c'est incroyable ce que tu me dis.
Ouais, parce c'est marrant.
J'avais une discussion avec un gars qui s'appelle Antoine BM.
Ok.
Sur le podcast, ça devait être le 3e ou 4e épisode. Et il me disait, donc lui, il est entrepreneur maintenant.
Ouais.
Ça marche bien pour lui. Franchement, il a pas de quoi s'inquiéter. Et parfois, aussi régulièrement, il faisait des rêves. Il était en école de commerce, lui.
Ok.
Et en fait, dans son rêve, en gros, son entreprise marchait plus, il était obligé de retourner à l'école de commerce. Et moi aussi, ça m'arrivait aussi.
Ah ouais, c'est marrant, tu vois.
Je retournais en école de droit et je devais repasser des examens et j'avais que des mauvaises notes et j'avais plus le droit de faire ce que j'aimais. Enfin,
alors moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas le rêve, c'est pas YouTube marche plus donc je retourne à l'école. Okay. C'est juste d'un coup, je sais pas pourquoi, justement, je passe l'examen alors que je suis conscient que je suis YouTuber, tu vois. Et enfin, je suis plus dans. Enfin, non, j'ai pas trop conscience que je suis plus dans l'école, mais j'ai conscience de me dire, mais attends, ça fait. Ouais, si, c'est un peu ça, ça fait deux ans que je suis plus là. Pourquoi est-ce que je fais ça? Mais
ça te ramène quand même à l'école, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est
alors
marrant,
que
ouais.
C'est un endroit où t'as plus forcément envie de retourner, quoi.
Non, je confirme. Ah, mais tu vois, j'ai encore beaucoup de potes qui font des études. En plus, j'ai beaucoup de potes qui sont en études de médecine, donc c'est très long. Et encore maintenant, ils sont encore dans les révisions, les trucs comme ça. Et moi, ça me fascine de me dire. Enfin, c'est hyper fort de comment dire, encore à 25, 26 ans, d'être encore à fond dans les études, les examens et tout. Et grand bravo à eux, tu vois, c'est vraiment du. Enfin, je pense que je pourrais le refaire si vraiment, mais si vraiment il le faut. Mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans le bain des études et tout, c'est quand même un vrai truc. Bon, après, ils ont jamais arrêté, donc peut-être c'est plus simple, mais quand même, gros respect à tous ceux même qui regardent la vidéo qui sont dans des longues études. Enfin, c'est vraiment un vrai travail acharné depuis des années, quoi.
Bah, j'en parlais même avec un ami qui passe, lui, l'école de magistrature parce qu'il a fait des études de droit aussi. Et pareil, ça m'a remis un peu dans ce truc de révision, de c'était le rattrapage il y a quelques semaines pour ceux qui étaient à la fac. Et lui, c'était un concours, mais il y en a beaucoup qui préparent des concours et des prépas l'été aussi. Et c'est vrai que, mais en même temps, souvent, c'est des personnes qui sont vraiment pas intéressées par la voie de l'entreprise, par exemple.
Ouais,
donc en fait, je trouve que l'important, c'est que tout le monde soit content de.
Ah bah évidemment, c'est
ça. Et ils sont contents parfois de réviser parce qu'ils ont l'objectif. Ce qui est compliqué, c'est quand toi, tu révises et que t'as même pas envie, comme tu le disais, après de. Tu te vois même pas faire ce que t'es en train de faire.
Ouais, ça, c'est plus dur. Quand tu subis un peu le truc, tu sais que tu te bosses beaucoup, mais tu sais pas pourquoi. Et moi, c'était vraiment ça. Chaque fois que j'y repense à mes écoles aux deux ans d'école d'ingénieur, c'est vraiment bizarre parce que je travaillais un peu, je pense, pour la pression sociale que soit je m'instaurais moi-même ou soit un peu de la famille ou quoi, de me dire, ok, il faut que j'ai des bonnes notes. Alors qu'en vrai, j'avais pas envie, en fait. Enfin, j'avais envie d'avoir des bonnes notes, mais j'avais pas envie de faire ça. Donc, c'est très paradoxal. Et je pense que malheureusement, c'est que quand tu subis ce truc-là sans vraiment trop savoir ce que tu veux faire, je pense que c'est encore pire, ça. C'est, ouais, tu travailles beaucoup dans ces études-là, mais tu sais que tu veux pas faire ça, mais tu sais pas vraiment ce que tu veux faire à côté. Du coup, c'est un peu dur, mais aussi, il faut passer par là pour se dire, ok, bah, derrière, on sait ce qu'on veut, quoi.
Ok. Donc, en soi, le choix, t'as fait le bon choix, t'as fait le choix du cœur, le choix de la passion, et
ouais,
t'es content de l'avoir fait.
Ouais, carrément.
Du coup, tu me disais que tu vivais pas de ta chaîne YouTube à ce moment-là où Pierre Cross te propose de venir à Maison Grise. Et donc là, est-ce que tu te dis, bon, bah, j'ai un an, je suis à Maison Grise à plein temps.
Ouais,
il faut que je vive de mon activité, il faut que je m'impose sur le YouTube game, il faut que je me développe, quoi.
En vrai, je m'étais pas fixé. Je pense que, ouais, j'avais un peu inconsciemment le truc de un an. Mais en vrai, c'était un peu freestyle. Je me suis dit, je vais voir parce que j'avais pas envie non plus de mettre une pression, de me dire, ok, dans un an, faut absolument que j'en vive. Parce que ça, justement, c'est pas le bon move à avoir parce qu'après, tu fais des trucs, t'agis un peu dans l'urgence, tu sors une vidéo qui marche pas, t'es en mode, attends, mais vite, il me reste plus que 11 mois du coup pour percer. Donc vas-y, tu fais un peu des trucs que tu regrettes derrière. Donc justement, je m'étais pas trop mis cette pression là. Excuse-moi. Ah, ok, hyper proche comme ça là. J'espère que vous appréciez ma voix.
Là, ceux qui écoutent dans la voiture, ils ont dû avoir
Salut à tous. Non, justement, je m'étais pas trop mis cette pression là. Mais je suis content que ça ait marché avant parce que je pense que c'est encore pire. Ouais, si au bout d'un an ça marchait toujours pas, t'es un peu dans la pression de te dire, ok, je fais quoi, mais en même temps je vais regretter. Enfin, tu sais, tu sais pas trop ce que tu fais. Donc j'ai pas trop réfléchi. C'était un peu inconscient, mais je me suis dit, ok, one life, faut tenter quoi. C'est okay. Un peu ça.
Donc, okay. Voilà. Et donc les premières semaines, est-ce que tu t'en rappelles de un petit peu, est-ce que t'avais une pression, est-ce que tu comment ça s'est passé les premières semaines quand t'arrives, t'avais ton studio en bas du coup,
ouais,
ils t'ont donné un studio et tu tournais tes vidéos
c'est ça. Bon, du coup j'étais à mi-temps avec Pierre, donc j'avais un peu une source de revenus via là qui était un petit truc, hein, mais qui permettait un peu de vivre déjà. Bah, c'était sur Paris, hein, donc j'avais la chance parce que j'avais un appart prêté par des amis de mes parents, déjà de t'enlever le loyer de Paris, donc ça c'était plutôt cool. J'avais un petit peu de revenus, mes parents qui m'aidaient, donc ça, heureusement, financièrement j'avais la chance de pas être trop contraint. En tout cas au début, quoi. Et donc ouais, je faisais mes vidéos et comment ça se passait, mais tu sais que j'arrive plus trop à me souvenir de l'état d'esprit que j'avais, mais je pense que j'étais évidemment très content, mais tu sais, c'est le moment où tu découvres le moment où t'as presque trop de temps, en fait. Tu sais, t'as une semaine où tu te dédies un peu qu'à ça, et du coup c'est dur au début de bien répartir son temps quand tu bosses seul, surtout sur des vidéos où tu sais tu peux, si t'es très inspiré, que tu sais, tu peux finir tout très vite, en fait. Une vidéo, t'as l'idée qui te vient, imagine, en 10 minutes, tu tournes le lendemain et tu montes après, tu sais, en 3 jours, t'as fini ta vidéo, et en théorie, tu vas avoir 4 jours de libre dans la semaine. Alors qu'au final, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu vois, c'est très dur à gérer son temps seul, surtout au début où en plus tu sais, j'étais un peu limité dans ce que je pouvais faire, c'était pas non plus des grosses vidéos, c'était souvent un truc à une caméra, seul, face cam, etc. Donc j'avoue que je pense que j'avais du mal au début à gérer un peu ce temps-là. Heureusement, en fait, c'est ça, j'ai toujours eu de la chance là-dessus d'être à Maison Grise parce que t'es vraiment bien encadré en fait. Il y a à la fois des gens, des youtubeurs comme Pierre, Ben, etc., qui ont vécu ce truc-là, donc ils peuvent te dire un peu comment gérer le temps, comment gérer le timing, etc. Pour les sorties de vidéos, le timing créatif, etc. T'as d'autres gens qui s'y connaissent un peu, même s'ils font pas des vidéos, typiquement Guillaume et Fred. Et après, au fur et à mesure, t'as plein d'autres gens qui sont les monteurs chargés de prod, etc., qui eux-mêmes ont une notion, qui abordent un peu différemment les vidéos. Donc, en fait, tu sais, t'es vraiment bien encadré et ça te fait tout relativiser, ça te fait tout. C'est du soutien aussi, même si c'est inconscient, tu as du soutien de te dire, ok, t'es pas tout seul. Et ça, c'était vraiment une vraie chance que j'ai à Maison Grise encore maintenant, de dire t'es bien encadré. Et ça m'a vraiment aidé aussi les premiers mois, parce qu'au début, t'es là en mode maintenant, je fais quoi en fait. C'est un peu ça, quoi.
Donc tu t'es senti bien en confiance dès le début, et
ouais,
tu t'expliquais dans un podcast aussi que t'avais fait des cours, limite un petit cours de YouTube.
Bon, ça c'est vrai que c'était arrivé une fois, mais ça c'était plus dans le stage d'été,
le stage
premier avant d'arriver. Oui, c'était marrant, c'était... Non, en fait, il faisait un truc, Pierre, c'était... Donc quand on faisait une vidéo par jour là, pendant 2 semaines, on écrivait un sketch et tout qui durait 2 minutes, et donc on lui montrait la vidéo finale, et comme c'était un sketch écrit, moi j'avais tout écrit sur un document Word. Et lui, à la fin du sketch, il me disait, vas-y, ressors le document Word. Et je lui montrais le truc. Et tu sais, il relisait tout le truc. Et un peu van par van, il me disait, bon, ça c'était cool, ça je pense, tu aurais pu l'orienter différemment. Et tu sais, c'était un peu plus ça, le cours entre guillemets. Après, c'était pas vraiment cours parce que derrière, je peux faire ce que je veux. Mais c'est plus des conseils qui sont intéressants à prendre, tu vois, justement.
Ok. Est-ce que maintenant encore, quand tu sors une vidéo ou quand tu vas sortir une vidéo, elle est revue par beaucoup de membres de l'équipe?
Non.
Et...
au début, je faisais revoir mes vidéos, mais même pas par des gens de Maison Grise, c'était plus genre mon frère, pour avoir vraiment un avis neutre. Donc c'était soit mon frère, soit des potes d'enfance, des trucs comme ça. Ou par exemple, la Maison Grise, même encore maintenant, des fois PA, je lui montre mes vidéos. Enfin, maintenant, je pense un peu avoir la notion de me dire, ok. En fait, c'est plus, je remonte mes vidéos quand soit j'ai un doute sur la compréhension du concept. Des fois, tu fais le truc et à force d'avoir réfléchi au truc, pour moi, c'est évident que les gens comprennent. Des fois, je me dis, attends, est-ce que c'est évident pour tout le monde? Donc là, je demande à quelqu'un qui a pas du tout interféré dans la vidéo. Ou alors, quand des fois, je me dis peut-être que c'est trop long. C'est une vidéo même qui dure 25 minutes, elle peut en durer que 20 et c'est plus intéressant. Et donc là, je la montre à d'autres gens, mais je le fais de moins en moins pour le coup.
Okay.
Parce que déjà, maintenant, comme c'est des monteurs qui montent mes vidéos, eux-mêmes, ils ont un point de vue un peu plus objectif sur la vidéo de base. Donc eux-mêmes ils gardent un peu les trucs intéressants pour eux. Ensuite moi je revois la vidéo, mais comme j'ai pas monté la vidéo, du coup je suis un peu moins je la connais un peu moins par cœur, donc je suis plus objectif aussi dessus. Et donc au bout d'un moment, et aussi je pense un peu avec l'expérience entre guillemets, tu vois, j'arrive à me dire si la vidéo me convient et si je pense qu'elle va plaire aux gens, quoi. Et si j'ai un doute, je le montre, mais c'est vraiment rare, quoi.
Combien de temps tu passes à trouver un bon titre, une bonne miniature?
Alors ça c'est tellement aléatoire, je sais pas. Maintenant, en fait, moi pendant longtemps je procédais sur YouTube en réfléchissant au concept, et avant de le tourner, j'avais le titre et la miniature. Enfin, je la faisais pas réellement, mais tu sais, j'arrivais à visualiser la miniature dans ma tête et le titre avant, parce que j'aime pas, c'est le truc de tu tournes un concept, tu trouves trop bien, et avant de la poster, t'es en mode bah attends, mais comment je le titre, comment je mets la miniature, parce qu'en plus c'est tellement important finalement sur YouTube que quand t'es dans ce truc de rush, tu regrettes un peu de pas avoir pensé avant, et du coup c'est très aléatoire. En vrai, je saurais pas dire.
Est-ce que tu fais, tu sais, sur le YouTube Analytics, les vidéos sont de 1 à 10.
Ouais.
Est-ce que tu fais des 10 sur 10 parfois?
Ah oui, oui.
Parce que mec, j'ai l'impression, là, depuis quelques mois, tes vidéos, elles cartonnent de
Bah en vrai, oui et non, enfin, ça dépend toujours.
Ok, je pense, même dépend, à toi, hein. Ça arrive d'avoir des...
Ah oui, bien sûr, mais je pense à
tout le monde.
Hein. Ouais, même okay. À ceux que je connais, à Pierre, ça arrive, à tous les YouTubeurs, on passe par là. Je sais pas si t'en as déjà parlé.
En fait, c'est vrai que j'en parle parfois. Donc, je pense que ceux qui suivent les podcasts de manière régulière, ils ont dû entendre parler de ça. Parce qu'à chaque fois, dès que je parle avec un youtubeur, on parle de ce fameux 10 sur 10.
Bien sûr.
Un bide, entre guillemets. Ouais.
Qui peut faire très mal. Hein. c'est faire très mal. Moi, maintenant, j'arrive à m'en détacher un peu. Mais au début, c'est vrai que ça fait mal. Hein.
Ok.
C'est un peu ce truc-là.
Ah, c'est marrant de savoir que toi aussi, du coup, ça te.
Ah, mais je pense tout le monde, en fait. C'est ça qui est un peu marrant, quelque part. C'est. je pense que tous les youtubeurs, on a ce truc-là de. En fait, même si tu fais des vidéos que tu kiffes, t'es content de la vidéo, t'es toujours deg quand elle marche pas, en fait. C'est quand même un truc de base, évidemment, quoi. Moi, au début, surtout au début, je pense en 2020, enfin au début, je veux dire plutôt au début où je vivais YouTube, ça m'impactait beaucoup plus. Maintenant, j'arrive à m'en détacher un peu plus des stats et tout. Mais toujours, enfin, tous les youtubeurs te diront que t'es quand même. Tu passes une meilleure soirée quand t'es 1 sur 10 que quand t'es 10 sur 10, quoi. Mais c'est normal, c'est logique, en fait. C'est logique.
C'est ça, ok. Et je me demandais aussi, donc là, pour revenir un petit peu à la chronologie où t'arrives à Maison Grise, tu te sens bien parce que l'équipe te met bien quand t'arrives et tu commences à faire tes premières vidéos. Je me souviens avoir vu une vidéo, d'ailleurs, je vais te montrer des extraits
Ah oui.
de. Je vais
J'assume
retrouver
tout,
ça.
t'inquiète.
Parce qu'en fait, là, c'est marrant, on est le 2 juillet au moment où on tourne. Et j'ai retrouvé donc deux vidéos que tu avais tournées, qui ont été publiées en tout cas en août, d'il y a un an. Et d'il y a 3 ans et d'il y a 2 ans. Pour te montrer un peu
Ok.
l'évolution que tu as
Il
eue.
y a 3 ans, je pense. Attends, qu'est-ce que t'as pu sortir là?
Alors, il y a 3 ans, c'était celle-ci. Je pourrais la montrer à l'écran.
Ah ouais, ah ouais. Ouais, c'était la première
Et
vidéo avec Camille à
celle-ci.
l'époque.
Ouais. Et donc, celle-ci, c'était le 5 août.
Ah ouais. Et c'était la première vidéo que j'avais faite, un peu format justement. On tourne 1h30, on garde. Enfin, c'est ce que je fais maintenant, tu vois. Le format un
Ok.
peu fit and fun, entre guillemets. Le fameux terme devenu un peu culte. Et c'est un peu ce truc-là, c'est la première fois que je faisais ça sur ma. Ah non, peut-être pas. Non, je l'ai déjà fait avec des potes d'enfance avant.
Ok.
Mais la première fois que je le faisais, en tout cas, depuis que j'étais arrivé un peu à Paris, Maison Grise et tout, quoi.
Ok. Et ensuite,
Y a le dernier qui dort, ouais.
un an prochain, un an
Un an
après,
après. Ouais.
exactement pareil, le 5 août
Ah, le
2020, du
5 août, ah
coup,
ouais?
5 août 2020,
C'était
vraiment
un an
un an
après?
après.
Ah ouais, c'est fou, ouais.
Est-ce que c'était ta première vidéo qui a beaucoup pris celle-ci?
Non, en vrai, ma première, c'était un truc que j'avais fait 5 mois après que je suis arrivé à Maison Grise. C'était vivre une semaine avec l'argent des tickets à gratter. C'était un
Ok,
truc.
j'ai vu.
C'était, je pense, le premier truc, ma première vidéo qui avait vraiment bien marché.
Ok.
Et ouais, putain, c'est vrai que c'est fou, j'avais pas capté que c'était un an de différence entre les deux.
Et il y a eu une belle évolution, hein?
Ouais, bah en fait, typiquement, l'évolution qu'il y a eu, notamment, ce qui m'a aidé là-dessus, c'est que en un an, j'ai eu aussi, entre-temps, là, je pense que c'était les premières vidéos. Ah non, j'ai dit n'importe quoi. Je veux dire, c'est la première vidéo où j'ai un monteur, mais le dernier qui dort, je l'avais monté aussi moi-même, je crois.
Ok.
Donc en fait, ouais, non, je sais pas. Je pense que c'est plus l'expérience de. En fait, je pense qu'en termes de réalisation, je pense qu'il n'y avait pas vraiment une vraie évolution parce que, à part la qualité d'image, la caméra ou quoi, mais au final, le dernier qui dort, c'est, je pense, une caméra fixe. Et en montage, je pense que j'ai un peu augmenté niveau montage,
Ouais.
je m'étais un peu amélioré.
Ouais.
Mais au final, je pense que c'est plus dans la présentation où j'avais un peu plus d'expérience. Parce que avant de faire la vidéo que tu as montré la première avec Camille,
Ouais.
je faisais que des trucs écrits sur ma chaîne, c'était des sketchs et des trucs comme ça, donc j'avais pas trop l'habitude de faire de l'impro. Et donc là, c'était un. Donc celle, le dernier qui dort, c'était un an après, où j'ai fait beaucoup de vidéos en impro, etc. Donc tu sais, tu commences à prendre plus de code, à être plus à l'aise, quoi.
Ok. Et est-ce que c'est cette année 2020 où tu as réussi à en vivre de YouTube?
Ouais, c'est ça.
Ok.
En fait, les 6 premiers mois à Maison Grise, quand j'ai arrêté mon école d'ingé, j'avais, je pense, 5 000 abonnés, un truc comme ça. Et 6 mois après, j'avais. Non, je pense que j'avais un peu plus. Au début, je devais avoir genre 6-7 000. 6 mois après, j'avais 10 000, je crois. Donc en fait, j'avais pas pris beaucoup et
Ah ouais?
ça avait pas du tout décollé.
Ok.
Et en fait, j'avais fait une vidéo. Ah oui, d'ailleurs, c'est la première qui a marché, c'était pas vraiment ça. C'était une vidéo avec Benjamin Verica. C'était un truc autour du rap français. C'était un truc que j'avais tenté parce que bah, j'ai toujours adoré le rap et tout. Et bref, et je voulais faire une vidéo autour de ça. Et j'ai fait un truc un peu avant Noël. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la première vidéo qui a marché la veille de Noël. Et j'avais sorti le truc et ça avait trop bien marché. Et ça a commencé un peu à lancer la chaîne. Et en fait, c'est après la vidéo des tickets à gratter qui, d'un coup, je sais pas pourquoi, alors qu'elle avait fait, tu vois, 2000 vues, elle a d'un coup commencé à décoller. Et c'est un peu le truc qui a lancé ma chaîne 6 mois après que je suis arrivé à Maison Grise.
Ok.
Et après, j'ai commencé à en vivre bah, un mois après, en fait. En janvier, ouais, on va dire. Janvier, février, un mois après. Et après, depuis, j'ai plus envie, tu vois.
Ok, donc ça veut dire que là, en 3 ans, t'es passé de 3 000 à 800 000 abonnés.
Ouais, c'est ça, en gros.
Ok, la vache.
Et ouais, non, le
Ok.
plus dingue, c'était plutôt le. En fait, c'était l'année 2020 où il y avait la vraie révolution. C'est que en décembre 2019, j'avais 5 000 abonnés. Et en décembre 2020, j'avais 500 000, je crois. Et
Ok.
c'est là, c'était l'année 2020. En fait, c'était très bizarre l'année 2020 parce que c'était en même temps que j'ai commencé à marcher, il y a eu le premier confinement. Donc c'était bizarre, tu sais, tout allait trop bien. Et là, je retourne à Savasse, enfin, dans la campagne, chez mes parents et tout. Donc tu sais, tu recommences à faire des vidéos seul. Enfin, j'ai l'impression d'être revenu en arrière de. Tu sais, je faisais des vidéos dans la même chambre à l'époque. Donc même si c'est des concepts différents, tu sais, c'est vraiment bizarre. Mais au final, c'était une année bah, la plus folle d'un point de vue YouTube parce que j'avais pu faire plein de trucs, ça avait tellement évolué. Là, je parle pas que des stats, hein, mais en termes de concept, c'est là où j'ai pu avoir des monteurs, donc j'avais plus de temps pour faire des vidéos, etc. Donc c'est là où vraiment il y a eu toute l'évolution. Et ouais, non, c'était incroyable, c'était un truc de fou. Mais paradoxalement, en perso, pardon, c'était justement une année bizarre, via le confinement, via un peu des problèmes perso et tout, donc c'était très paradoxal 2020, tu vois.
Ok.
Mais au final, ça reste fou, quoi.
Donc le premier confinement, tu l'as assez mal vécu personnellement, mais...
Ouais, là, longue histoire, je rentre pas trop dans les détails, mais en perso, j'avoue que c'était pas dingue. Mais d'un côté, en même temps, c'est tellement cool ce que je vivais avec YouTube que du coup, ça, enfin, c'est pas que ça compensait, parce que c'est vraiment différent, mais c'était une année vraiment folle en fait. Enfin, folle dans le sens absurde, enfin, j'ai pas le bon mot, tu vois, mais.
C'était étrange parce que déconnecté de la réalité en fait.
Bah en fait non, pas donc ça justement parce qu'au contraire, enfin moi ma vie avait pas du tout changé en le sens où tu vois c'est t'as pas du tout un truc de oh c'est bon je passe à 500 000 abonnés tu prends la grosse tête ou je sais pas quoi, vraiment pas du tout. Donc non en fait c'est juste moi j'étais vraiment content parce que là je pouvais vraiment faire tu te sens plus libre de faire un peu ce que tu veux. Enfin non c'est pas non plus ça parce qu'avant j'étais pas restreint. Je sais pas comment dire mais c'est une année où t'es tu sais, t'as un peu le rêve qui se concrétise un peu, tu vois. Le truc de t'envie, tu fais. C'est vraiment un. Tu sais, c'était vraiment le vrai. Souvent, je parle de rêve de gosse dans ma vidéo, mais c'était le rêve de gosse numéro 1 de ma vie, c'était de pouvoir faire des vidéos tout le temps, tu vois, toute la journée et tout. Et là, c'était vraiment l'année où ça se concrétisait vraiment, quoi. Et en plus, j'avais un peu, je pense, aussi ce truc-là de me dire cool, je vais pas retourner à faire des études que je voulais pas faire, tu vois.
Ouais, tu t'éloignais de plus en plus, tu sécurisais de plus en plus et ça allait de mieux en mieux dans ce sens-là.
Ouais, c'est un peu ça.
Tu sentais que t'avais pas allé.
C'est ça, ouais.
Ok. Est-ce que parfois t'as l'impression que t'es encore un peu dans un rêve et que tu réalises pas trop?
En fait, un peu, c'est-à-dire que je trouve que, tu sais, tant que t'es dedans. Ouais, bon, j'ai tapé le micro, désolé à ceux qui m'ont qui m'ont roulé. Je pense que tant que t'es dans le truc, c'est ça qui est un peu fourbe avec le cerveau humain, c'est que tu profites pas tellement tant que t'es dans le truc, je trouve. Je sais pas ce que je veux dire un peu.
Ouais.
T'sais, c'est une fois. Ou peut-être c'est surtout moi qui suis comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens pareil. C'est quand t'es dans le truc, tu profites moins parce que t'es justement à fond, t'es dans le truc de ok, tu travailles à fond là-dessus, etc.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Donc je pense que t'as moins le recul pour te dire ah ouais incroyable. Enfin si je l'ai quand même, mais des fois tu sais je repense un peu à quand j'avais 12 ans et je faisais mes premières vidéos et je me dis tiens c'est fou. Enfin tu sais je suis quand même trop content mais je pense que je réalise pas encore pleinement que je le vis en fait. Tu vois c'est ouais. Un peu paradoxal aussi.
C'est un peu ce que disait parfois par exemple un tennisman qui pour lui le rêve c'est de jouer à Roland Garros sur le court ouais. Châtrier tu vois et il disait que parfois la première fois qu'il allait sur le court il en profitait pas. Parce que c'est tellement étrange.
Ouais,
tellement...
c'est dans le truc en fait. Il est dans son ouais. Match. Et dans...
C'est ça. Donc, c'est un petit peu ce que tu. Ça me faisait un peu penser à ça quand tu me disais ça.
Ouais, c'est un peu ça.
Et est-ce que parfois t'as besoin limite de regarder des vidéos que t'as tournées pour te rendre compte que ça s'est produit?
Et bah, tu sais que je l'ai fait un peu ça des fois. Ouais. Je l'ai fait un peu de regarder des vieilles vidéos. Mais c'est. Enfin, je le fais aussi un peu par nostalgie parce que je vais bien quand même cette période. Et, mais je le fais un petit peu aussi. Je pense que ça m'aide un peu aussi à me dire ah ouais, trop bien en fait. Ça a bien évolué quoi.
Ok.
Et encore une fois, quand je parle d'évolution, je parle pas de trucs de ah ouais, trop bien, j'ai plein d'abonnés, des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment pas. C'est, je parle même pas que ça. Bon, forcément, ça joue un petit peu pour être honnête. Mais c'est même dans le. Tu vois, l'envie de. Tu sais, quand j'étais petit, des fois, je me disais ah ouais, j'aimerais trop faire telle vidéo, mais c'était impossible. Tu vois, genre, typiquement, quand je fais les vidéos des matchs de foot, moi, j'ai toujours adoré le foot quand j'étais petit et tout. Et me dire, vas-y, tu fais une vidéo, une grosse vidéo avec plein de gens, plein de caméras et tout. D'où le rendu et j'en suis vraiment content et tout quand t'es plus jeune moi c'était évidemment impossible et de me dire ah ouais je peux faire ça maintenant c'est plus ça où je me dis ah ouais c'est trop bien en fait c'est, je peux faire les vidéos dont j'ai toujours rêvé quoi.
Ouais tu sens que t'as rendu fier le Lucas petit qui
regardait
ouais
c'est YouTube. Un peu ça tu vois c'est un peu ça
ok
c'est ça.
Et est-ce que maintenant que t'as presque 1 million d'abonnés est-ce que t'as des petites anecdotes avec des abonnés que tu pourrais nous partager dans le podcast
Où j'ai rencontré des gens quoi.
Pour commencer, si ça se trouve, il y en a une en tête que j'ai qui date de quelques semaines. T'as pas fait un concert où les abonnés vous ont reconnu
Ça,
des tribunes?
Moi, je pensais pas à ce genre de truc, mais
pour commencer,
J'étais allé au concert de Big Flo et Oli. C'était
quelques semaines.
Je crois il y a une semaine en fait. Hein.
C'est vraiment pas il y a longtemps.
D'ailleurs, trop bien, enfin incroyable. Et en fait, ouais, j'avoue, ça a paru bizarre parce qu'en fait, on était arrivé dans les tribunes en haut. Et tu sais, c'est un peu dans l'ombre et tout, et t'avais les gens dans la fosse qui nous avaient vus et qui nous appelaient. J'étais avec Alaria et Vincent, et qui nous appelaient d'en haut, et j'étais un peu choqué. Je pensais pas que les gens nous voyaient parce qu'on était dans l'ombre et tout, et je pensais pas que les gens allaient nous appeler et tout. Et donc, ça, j'avoue, ça fait un peu bizarre toujours, et c'est trop bien, tu vois. Tout le monde était trop gentil. Après, on a vu beaucoup à la sortie du concert, ça fait toujours trop plaisir de croiser plein de gens, tout le monde est trop sympa et tout, donc c'est toujours un grand plaisir. Je pense que. Un truc plus absurde entre guillemets qui est arrivé, j'avais un truc où c'était quasiment il y a 2 ans, j'étais avec Oriane de Maison Grise, on était parti faire un repérage pour un tournage à l'autre bout de Paris, et en revenant dans le métro t'avais un abonné qui m'a reconnu et donc dans le métro hein, et tu sais il m'avait appelé mais hyper fort. Genre, tu sais, dans le métro, personne parle ou hyper bas. Et lui, il m'a vraiment appelé hyper fort. Et du coup, tout le métro s'est arrêté. Tous les gens sont arrêtés dans le métro et ils nous ont tous regardé. Et tu sais, un peu la gêne où tu es là, tu te sens vraiment observé et écouté. Et en fait, évidemment, le mec, peut-être il se rendait pas compte qu'il a dit hyper fort. Mais tu vois, il continuait à parler hyper fort et tout le monde nous écoutait. J'étais un peu gêné.
Il faisait Lucas et puis après, il continuait de parler.
C'est ça, tu vois. Ça c'est plus marrant sur le moment, mais ça m'a toujours resté un peu. J'étais un petit peu gêné sur le moment, mais en même temps, je me suis dit, c'est pas grave, tu vois. Et si j'ai un autre truc un peu marrant aussi, j'étais avec mon frère dans le métro aussi, c'est encore dans le métro. Et à un moment, t'as un policier qui vient me voir, qui tu sais, t'as des mecs, je sais pas si c'est vraiment un policier, mais agent de sécurité de. Peut-être pas la RATP, mais en tout cas, tu sens que c'est un mec en uniforme qui fait respecter la loi, quoi. Donc, c'était 3-4, et t'en as un qui vient me voir. Et il me dit juste, est-ce que ça te dérange de descendre au prochain arrêt? Et j'étais, attends, il se passe quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, je lui dis, ok, bien sûr. Mais tu sais, sur le moment, j'étais en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, on est descendu après, et c'était un abonné. Et sauf que, vu qu'il était en fonction, il pouvait pas me demander une photo ou quoi dans le métro. Du coup, on est descendu à l'arrêt, on a parlé, tu vois. Ça a fait rire sur le moment. Et je pense, j'en ai d'autres, mais j'oublie un peu. Mais y a rien de fou non plus. Mais c'est un peu marrant.
Quand tu te balades dans les grandes villes, tu te fais reconnaître tous les jours maintenant?
Je pense à peu près. Après, en vrai, Paris, pour le coup, c'est marrant parce que Paris, on a l'impression que c'est là où t'as le plus de gens qui t'arrêtent, alors qu'au final, non, c'est justement l'inverse.
Okay.
J'ai l'impression. Mais après, je sors pas de ouf non plus dans. Bah, quoi que, ça dépend. Ça dépend, ouais.
Okay.
Mais un petit peu, ouais. Enfin, ça dépend, c'est vraiment aléatoire. Mais en tout cas, c'est toujours trop cool. Moi, je kiffe croiser plein de gens parce que souvent, je prends le temps un peu de parler avec les gens parce que j'aime bien. Soit c'est eux-mêmes qui parlent d'un truc, ou soit même moi, j'aime bien parler, tu sais, apprendre ce qu'ils font dans la vie, ou même par rapport aux vidéos, voir ce qu'ils aiment bien, quelles vidéos ils ont bien aimé, tu sais, j'aime bien parler avec plein de gens. D'ailleurs, s'il y en a qui me croisent ou quoi, n'hésitez pas, vraiment, c'est toujours avec plaisir. Hein.
Ok, oh, c'est cool de prendre le temps de leur parler à chaque fois.
Ouais, de ouf, hein, ouais, c'est entre eux.
Okay. Est-ce que le Lucas de 2022, il est plus heureux que le Lucas de 2020?
Je sais pas, en fait, je pense que ce qui est fourbe, c'est que. Tu sais, quand tu penses au passé, t'as toujours. T'occultes un peu tous les trucs moins bien et du coup, t'as toujours l'impression d'être plus heureux avant.
Je crois que c'est un nom, ça s'appelle le biais de nostalgie en fait.
Okay,
c'est un peu l'idée qu'avant, c'était, tu retiens que le positif.
Ouais, c'est un peu ça. Et il y a un meme sur Twitter qui me fait rire où tu vois 2011, 2012, 2013, 2014, faudrait que je l'envoie si tu rajouteras au montage.
Ouais.
Où c'est un mec qui est un peu qui est pas bien. Et après 2015, 2016, 2017, il est pas bien non plus, mais quand il repense à l'époque, il s'imaginait en mode il va bien, tu vois. Donc en vrai, je pense que je suis bien en 2020, en 2022. Je pense que je suis heureux différemment, on va dire. Je pense que 2020, j'étais très 100% un peu carrière pro de full YouTube, YouTube, YouTube. Et je pense que mon bonheur dépendait beaucoup de ça. C'est-à-dire, je reposais beaucoup sur. Tu sais, si j'étais frustré parce que je pouvais pas faire telle vidéo ou telle vidéo marchait pas ou je sais pas quoi, ça m'impactait beaucoup plus dans mon quotidien. Donc je pense que j'étais très lié à ça. Et là, 2022, c'est un bonheur qui est un peu différent dans le sens où ça dépend encore beaucoup de YouTube et tout, parce qu'en vrai, mine de rien, ça représente 80% de ma vie facile. Je pense que j'ai un peu une part de perso qui rentre en jeu, tu vois, avec des rencontres ou des trucs comme ça différentes qui m'ont fait profiter de la vie un peu différemment, tu vois. Avant, j'étais beaucoup plus dans la sphère pro pour être heureux, et ça dépendait beaucoup de ça. Et maintenant, je considère un peu plus d'autres aspects de la vie dont je m'étais un peu privé avant, tu vois.
Ça t'apporte un truc que tu retrouves pas forcément avec YouTube et inversement. Ouais, c'est quoi.
Ça. Et typiquement, tu vois, c'est ça qui m'a un peu aidé à me détacher un peu des trucs de stats ou des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, voilà, beaucoup de YouTubeurs ont beaucoup dans les stats, bah, peut-être toi aussi, tu vois. Bah, tu vois, on en parlait du 10 sur 10, mais sans dire que quand t'es 10 sur 10, t'es dépressif ou quoi. C'est juste que quand t'es 10 sur 10, ça peut impacter sur le moment. Et tu vois, maintenant, c'est moins ce truc-là. Bon, ça compte évidemment toujours, mais j'arrive à trouver d'autres sources de bonheur un peu ailleurs. Et je suis un peu, enfin, je suis content de ça, tu vois. Notamment, sans rentrer trop dans le perso, mais tu vois, c'est via ouais, des rencontres, des trucs comme ça, des derniers mois qui m'ont vraiment fait, notamment une rencontre où vraiment c'est un peu différent. Et c'est, tu sais, tu trouves un peu tu vis un peu différemment. Et je trouve que c'est un bonheur un peu différent de 2020. En fait, je sais pas si je suis plus heureux qu'en 2020, mais c'est un bonheur un peu différent en tout cas.
Tu trouves pas que...
J'ai beaucoup bégayé parce que je sais pas trop comment
non,
le raconter.
Non, c'est clair. Okay. Il y a la vie pro et la vie perso, et t'as ouais, trouvé ton bonheur dans plusieurs sources que t'avais pas avant.
Ouais, avant c'était beaucoup plus pro, j'étais beaucoup un peu enfermé là-dedans, tu vois.
Est-ce que tu trouves pas que... Bon, là t'as 23 ans du coup, comme moi actuellement, tu viens de les avoir. Est-ce que tu trouves pas que plus on grandit et plus on ressent les choses profondément aussi?
Bah, c'est-à-dire à quel niveau tu veux dire...
Quelle que soit la chose que tu ressens, tu la ressens plus fort. Donc dans le sens, par exemple...
Ah, je sais pas.
Non,
je sais pas dans quel toi sur quel axe.
Bah, par exemple, quand je suis heureux à 23 ans, j'ai l'impression que je suis plus heureux que quand j'étais le plus heureux à 18 ans. Alors qu'à 23 ans, quand je suis vraiment très heureux,
ouais,
je le ressens très profondément. Et à l'inversement, quand je me sens pas très bien, je le sens très profondément. Alors qu'à 18 ans, j'ai l'impression que je ressentais les choses plus en surface.
Ah, c'est marrant, moi j'aurais dit l'inverse, tu vois.
Ok.
J'aurais dit que plus tu grandis et plus t'as du recul un peu sur les choses. Je pense que, ouais, alors je suis d'accord sur le côté heureux, mais après peut-être que je suis un peu biaisé par mon expérience perso ou quoi, mais quand je suis heureux, je me dis au contraire que j'ai plus le recul de me dire, ok, bah, quand t'as vraiment une source de joie sur le moment, j'ai plus le recul de me dire, ok, bah là, profites-en à fond. Et à l'inverse, quand il y a un truc qui va moins bien, j'ai l'impression que j'arrive plus à prendre du recul de me dire, ok, bah, je suis conscient que c'est un truc un peu provisoire ou je sais pas quoi, tu vois. Mais non, j'aurais dit plutôt à l'inverse, mais
okay.
Je sais pas qui a... Je pense que non, je pense c'est vraiment différent selon les gens, tu vois.
Okay,
je pense que ça dépend beaucoup de comment t'étais à 18 ans, comment t'es maintenant. Je pense que c'est un peu ce truc-là aussi, quoi.
Ok. Mais donc, je te pose la question parce que c'est intéressant de savoir est-ce que t'es plus heureux en 2022 aujourd'hui qu'en 2020.
Ouais.
Niveau professionnel, qu'est-ce que le Lucas il a appris en 2022 qui conseillerait au Lucas de 2020
Purement professionnel
ou personnel d'ailleurs en fait.
Alors en pro je dirais, ça me fait réfléchir là. Attention,
vas-y,
moment un peu chiant pour les gens.
Prends ton temps, c'est un podcast.
Buvez un verre d'eau chez vous.
Pendant ce temps, je vous invite à mettre 5 étoiles sur le podcast si vous l'écoutez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou sur YouTube, le temps que Lucas vous trouve une réponse et vous donne une leçon de vie qui vous scotchera toute votre vie.
Bah là je pense pas là. Là je pense pas. Non, qu'est-ce que je dirais en pro? Je dirais de... En fait c'est fou parce que c'est pas les mêmes configs en 2020 en 2022, tu vois. Je pense que à une époque en 2000... Ah si, un truc important. Et en vrai je le conseille maintenant à des potes youtubeurs qui se lancent ou des trucs comme ça. Je pense que c'est de bien segmenter un peu ses journées. Parce que en fait youtubeur, c'est un peu ce que je disais quand je suis arrivé à Maison Grise. Quelque part tu peux avoir beaucoup de temps pour faire ce que t'as à faire. Et du coup, tu sais, ça te baisse un peu ta productivité. Tu sais, tu peux dire, ok, si je le fais pas maintenant, bah tranquille, je le fais ce soir, en fait, c'est pas grave. Et je pense, je conseille vraiment d'avoir des horaires un peu comme un taf un peu classique et de se dire, ok, bon, bah là, si je fais pas ce truc-là ce matin, je me dis pas, bah je le ferai ce soir, c'est pas grave. Tu sais, il faut vraiment considérer que le soir, c'est hors du taf. Tu sais, YouTube, tu peux facilement te dire, ok, bah je monte ma vidéo de 23h à minuit, enfin... plus que ça, oui, mais tu vois ce que je veux dire, fais un peu comme tu veux. Et je pense qu'au contraire, c'est un piège que dans lequel j'étais un peu en 2020. Et tu sais, je mélangeais un peu tout. Tu sais, t'avais des moments où, je sais pas pourquoi, de 11h à 13h, je faisais un truc qui avait rien à voir, qui était plus du kiff perso. Alors que du coup, je travaillais de 22h à minuit, et tu sais, c'était un peu bizarre. Et je pense, alors à la fois, c'est cool de se dire, ok, je fais un peu ce que je veux quand je veux. Mais du coup, je trouve que ça baisse un peu la productivité de me dire, des fois, si un truc à 11h, je me disais. Tu sais, je dois trouver une idée pour un concept de, on va dire de 11h à midi. Si à 11h je le trouvais pas, je me disais, bon bah c'est pas grave, au pire j'ai ce soir et tout. Et du coup, tu perds beaucoup de temps en fait. parce que ton cerveau il est pas un peu en, entre guillemets en alerte de se dire ok faut que je le trouve maintenant parce que je m'accorde qu'une heure pour le trouver, et du coup tu perds beaucoup de temps je trouve, et je pense j'avais un peu ce truc là en 2020 où je m'en foutais un peu de me dire ok bah ce soir au pire c'est pas grave, je perds du temps, je vais sur mon téléphone une heure et je rattraperai ce truc là ce soir. Et je pense que c'est vraiment un truc important de se dire ok, et c'est d'ailleurs ce qui est vraiment cool à Maison Grise, c'est que comme 95% des gens ici ont des horaires comme un vrai boulot de 10h-18h, moi j'essaie de vraiment respecter ces horaires là bon si j'ai un truc à faire en plus le soir je le fais, mais j'essaie vraiment de me dire ok je suis à fond de 10h-18h et après au moins le soir j'oublie ce truc là et je kiffe un peu en vie perso quoi. Et avant j'avais un peu du mal, je mélangeais un peu tout, et ça c'est un truc aussi que j'ai appris, et du coup ça relie un peu à la thématique qu'est-ce que j'aurais conseillé en perso au Lucas de l'époque. C'est un peu ce truc là de vraiment segmenter pour quand t'es en perso bah tu kiffes et tu dis pas ok attends j'ai tel truc à faire que j'ai oublié ou je sais pas quoi, c'est vraiment tu segmentes, tu dis ok là la journée bah je taffe à fond, je suis à fond et tout, et le soir bah si vraiment t'as besoin tu travailles, mais sinon tu peux concilier les deux et vraiment avoir la vie perso qui est vraiment importante. Et je pense que la vie perso c'est important aussi en termes de bah évidemment de kiff, ça peut être pour plein de trucs, mais typiquement juste sortir avec des potes en soirée ou quoi, c'est important pour le kiff perso d'une vie, mais aussi je trouve ça aide dans le pro de se détacher un peu, de pas être tout le temps à fond dans ces trucs là en plus YouTube c'est un peu un truc où notamment bah, c'est un taf vraiment de passionné où du coup tu y penses tout le temps, et du coup je trouve c'est bien un peu de s'autoriser des pauses cérébrales un peu pour penser à d'autres choses et être plus efficace derrière. Donc c'est bien aussi de se détacher un peu à des moments quoi.
Ok, donc le Lucas de 2022 il est plus cadré dans les horaires.
Ouais c'est ça.
Et il segmente un peu mieux les choses. Donc voilà. Quand il est avec quelqu'un dans le perso, il est à fond dans le perso au maximum.
Pas toujours mais en tout cas j'essaye ouais. le plus possible.
Bah après je connais pas grand monde qui arrive à 100% dans ouais. un métier très créatif ou c'est un vrai. Métier qui te prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais déjà ouais. si t'arrives à faire l'effort de te concentrer sur le perso c'est bien ok.
C'est ça. Et en vrai, ouais, c'est ça, en perso, c'est un peu ce truc-là de... Je pense que pendant longtemps, je négligeais un peu le... Enfin, c'est bête, hein, ce que je veux dire, mais je négligeais un peu l'aspect perso sur le bonheur en général, tu vois. Mais je pense que c'était un peu lié au fait que même quand j'étais en études d'ingé, je bossais beaucoup, enfin, j'ai toujours beaucoup travaillé, tu vois. Et du coup, je m'autorisais rarement les kiffs perso. Et en fait, c'était un peu le truc fourbe de même quand je m'autorisais un peu des kiffs perso, juste par exemple de sortir en soirée avec des potes. Tu sais, j'ai un peu une culpabilité de me dire bah ouais, mais je travaille pas dans ce moment-là. Et tu sais, c'est un peu fourbe parce que c'est un engrenage qui est cool parce que des gens vont dire ouais, mais justement, il faut passer par là pour réussir en pro et tout. Mais je pense que c'est un truc aussi où attention à pas le regretter plus tard dans ta vie. Te dire ok, j'ai beaucoup travaillé sur plein de trucs, mais derrière, tu t'es un peu privé de trucs de kiff perso qui doivent avoir lieu, quoi, je pense. Okay. Je pense que là, chacun peut être très divisé là-dessus et des gens vont dire, vont pas être d'accord avec moi. Et là je pense que c'est vraiment un truc que je t'aurais pas dit si on avait fait le podcast l'an dernier, enfin en tout cas j'aurais été beaucoup plus nuancé là dessus et là je trouve ça vraiment important de s'accorder des temps où vraiment tu profites en perso parce que ça c'est un truc aussi faut pas le regretter derrière quoi.
Bah tu vois la semaine dernière j'ai eu sur le podcast Marketing Mania
ouais.
Stan Leloup qui disait que lui par exemple il a fait très très peu de soirées à sa vingtaine
ouais.
Il vient d'arriver dans la trentaine et lui il a dit zéro regret parce qu'en fait dans la vie il est plutôt introverti
ouais tu vois ça marche aussi
maintenant. Et ouais mais c'est bien en fait c'est juste faut savoir où est-ce qu'on est dans le spectre quoi
ouais c'est ça
et en vrai la plupart des personnes sont souvent un peu au milieu parce qu'elles ont besoin d'avoir un travail et de tout le monde a envie de travailler de faire ouais. un travail productif et d'utiliser son potentiel sur une tâche intéressante tu vois par contre c'est vrai qu'il y en a beaucoup je pense qui aiment bien aussi passer du temps
bien sûr.
Connexion et t'es sûrement du coup tu te sentiras un petit peu dans cette catégorie
en fait oui non c'est moi j'aime bien les deux en fait c'est ouais. genre déjà je suis pas le mec où je sors tous les soirs et tout par contre j'aime bien des moments où on se dit ok on sort entre potes okay. tel soir où je sais pas j'ai un autre truc à faire tel soir avec telle personne en fait c'est comme pendant longtemps je l'ai pas en fait c'est un peu ça le piège c'est que pendant longtemps je le faisais pas c'est à dire à une époque bah, tu vois mes 18-19 ans donc quand j'étais en école d'ingé et tout toute la semaine je travaillais jusqu'à genre 21h en école d'ingé enfin pour l'étude d'ingénieur pardon et après je travaillais pour les vidéos YouTube et pareil le week-end en fait je faisais quasiment que ça et quand j'avais une soirée avec des potes à chaque fois c'était un peu en mode ok je viens mais je peux rester que 2 heures et tiens je me privais un peu de ces trucs là sur le moment ça me dérangeait pas du tout parce que bah, j'étais trop content de faire les vidéos et enfin c'est encore le cas maintenant ce que je veux dire mais c'est que je me disais pas ok je manque un truc enfin si sur le moment j'étais un peu deg de partir de la soirée mais quand même j'étais content de me dire ok je fais des vidéos derrière et tu vois là c'est un peu le moment où j'ai un peu plus de temps parce que du coup j'ai la chance de pouvoir travailler avec une équipe où par exemple je fais plus de montage, ça, ça me libère un temps de fou et ça c'est trop bien, et du coup j'ai le temps un peu de faire des soirées, des trucs comme ça, et tu sais, tu découvres un peu ce kiff que je connaissais pas trop avant, donc tu sais, c'est un peu le piège de waouh, en fait c'est trop bien, tu vois. Mais il faut pas non plus tomber dans le penchant inverse de dire ok, maintenant je fais que ça. Du coup j'essaye de bien équilibrer le truc et je suis plutôt content, je pense qu'il y a un équilibre cool que j'arrive à maîtriser, notamment via ce que je te disais, de réduire un peu le temps perdu en journée, où maintenant j'ai conscience de me dire ok, le soir si je veux sortir je le fais, par contre Lucas t'es à fond de 10h à 18h quoi.
Okay. Bah, tu sais, ça me parle parce que je pense qu'on est un peu pareil sur ce point. Il y a quelques années en droit, j'étais content de partir avant le début de, avant la fin de la soirée, j'étais là, j'ai pas rentré chez moi, faire des petites vidéos et tout, et maintenant c'est plutôt l'inverse, j'ai envie de, si j'ai bien travaillé la journée, je suis très content de rester dans la soirée et de profiter, et je me sens
et c'est bien d'avoir ce truc de récompense quand t'es content de ton taf et tout. Par contre, à l'inverse, si de 10h à 18h je suis nul, que j'ai pas avancé machin, je sortirai pas le soir et je travaillerai. Et si je sors, je culpabiliserai pour le coup. Donc il y a ce truc là où c'est quand même avant tout. En fait, c'est ça qui est trop bien quelque part. Je suis très content de ça et j'en suis vraiment. Je reconnaissant là-dessus. C'est que YouTube, en fait, tu sais, quand tu taffes, tu dis pas non, merde, faut que je taffe. Tu es trop content et c'est ça qui est trop bien. Et c'est là où vraiment j'en suis vraiment reconnaissant et encore à l'infini quoi. C'est de me dire, c'est trop bien. C'est quand tu taffes la journée, tu es trop content. Et en plus, après, tu as du temps libre. Donc c'est trop bien quoi.
Ok. Ce serait quoi ton, déjà c'est quoi ta vidéo préférée aujourd'hui, tu dirais?
Je pense que c'est ma vidéo du foot où on affronte mon club d'enfance là.
La première vidéo.
Ouais, la première. Je sais pas si c'est la mieux, mais c'est plus symboliquement. Enfin, la vidéo du foot c'est mes préférées.
Ok.
Et celle-là un peu, il y a la symbolique de, je ramène tout le monde dans mon club d'enfance.
Et tu l'as racheté le club, non?
Alors c'est pas racheté, c'est on est sponsor du club encore
okay,
maintenant.
Ok, ah oui d'accord.
Il y a votre photo. Parce que tu peux pas racheter officiellement un club, tu sais, ça dépend de la mairie et tout. Okay. À la base je voulais un peu, mais c'est impossible en fait. Et du coup c'est sponsor du club et ouais, symboliquement elle était trop bien, j'étais trop content.
Tu sentais avant ce montage que c'était un banger parce que t'as vu qu'il y avait Michou, t'as vu qu'il y avait du beau monde?
Banger je savais pas trop, en fait, disons que la première vidéo avait bien marché, on sponsorisait le club et après en fait tu sais que pas tant que ça en fait. Je pensais que j'en parlais même avec Pierre, j'étais pas sûr du tout que ça allait marcher, mais j'avais trop envie de la faire en fait. Je me suis dit mais attends, mais même si elle marche pas je m'en fous, genre c'est trop bien, j'y ramène tout le monde en fait tu sais c'est une vidéo de foot au final, tu sais ma commu je savais pas trop si, enfin le foot c'est très connu. Mais c'est quand même un match de foot, bon, on a essayé de le rendre un peu divertissant et tout. Mais au final, je savais pas du tout si les gens ils allaient aimer. Mais j'avais tellement envie de la faire, je me suis dit, bon, je m'en fous, en vrai, même si elle fait 100 000 vues, ça va être trop bien. Et j'étais trop content du rendu, et en plus, ça a bien marché, donc j'étais trop content. Quoi.
Ok, est-ce que t'as un peu une idée de ton feed de rêve, de ta vidéo rêver un petit peu
Bah, feed de rêve, j'en parle souvent en vidéo, c'est Ariana Grande.
Oui.
Un peu, mais tu sais, c'est plus. Mais
je crois qu'elle écoute le podcast, elle m'avait laissé un commentaire, donc si elle veut, elle pourra t'envoyer un message.
Ce serait beau. Mais ça, c'est un peu l'accomplissement, mais tu sais, c'est plus. En vrai, tu vois, alors j'adore ce qu'elle fait. Je suis pas non plus le plus grand fan. Tu vois, en vrai, j'écoute beaucoup de ses sons, etc. Mais c'est pas non plus l'artiste dont je suis le plus grand fan. Mais c'est plus la symbolique de me dire que j'en parle souvent en vidéo, etc. Et de me dire, tu sais, si un jour ça se fait, c'est genre c'est tellement symboliquement trop cool, comme je l'annonçais depuis longtemps. Donc je pense que c'est le feat numéro 1 quoi.
Parce que pour ceux qui l'ont pas vu, on l'a peut-être vu dans tes vidéos, mais dans ton studio en bas, dans le studio dans lequel tu tends des vidéos, il y a beaucoup de trophées YouTube, mais il y a aussi beaucoup de panneaux, de tableaux avec Ariana Grande.
Ouais, c'est ça.
J'en ai compté minimum 3 au mètre carré.
Mais en plus, déjà c'est marrant, mais c'est plus dans la symbolique de le faire, de me dire si un jour j'arrive à faire ce feat là, c'est qu'il y aurait eu quand même d'autres étapes de franchies d'ici là, et je serais content de me dire ok, c'est tellement... Je me dis, honnêtement, premier degré, je me dis c'est faisable, mais c'est par contre c'est hyper dur. Mais j'aime me dire ça, tu vois. Ouais. J'aime me dire si ça se fait, c'est qu'il faut, il y a plein d'étapes à franchir avant ça.
Il faudrait qu'elle fasse un tour en France, enfin qu'elle fasse un peu un tour de.
Mais tu vois justement, c'est que en vrai, j'en avais parlé une fois. On était allé sur Énergie avec Camille faire un passage, et tu sais, des fois, elle vient dans les trucs comme Énergie.
Ah, ouais.
Et en fait, j'ai pas non plus envie que la vidéo ce soit, je fais un vlog et t'as une minute de passage avec elle et machin. Moi, ce serait du coup, c'est hyper ambitieux, mais un vrai concept.
Ah ouais, ok.
On tourne, bon, peut-être pas un truc d'une heure et demie, mais tu vois, tu tournes. 30-45 minutes avec, et tu sais, c'est un vrai concept dédié avec elle. Attention, c'est hyper ambitieux, mais j'aime trop ça en fait. J'aime trop me dire, tu sais, je suis un grand rêveur en fait. D'un côté, tu sais, même si ça se fera, enfin, tu vois, c'est un peu ambivalent. Je suis en mode, c'est trop dur, donc peut-être ça se fera jamais. Et à la fois, j'imagine pas que ça se fasse pas, tu vois. Donc, j'aime trop me dire,
comme
ok,
YouTube, comme YouTube en fait,
c'est un peu ce truc là, ouais. Et j'aime trop me dire, vas-y, je vais essayer de taffer pour que ça se fasse, et c'est trop bien, quoi. Tu sais, c'est vraiment un peu la métaphore de, tu sais, tu mets la carotte devant l'âne, tu sais, qui avance un peu, c'est le truc qui te fait, c'est trop important de rêver tout le temps, de se dire ok, même si c'est un peu utopiste ou quoi, de se dire bah je tente un maximum et puis on verra quoi.
Tu t'étais imaginé réussir sur YouTube avant de réussir?
Bah en fait, j'en rêvais tellement que je me suis dit. En fait, c'est très bizarre, ouais. J'ai un peu formaté mon cerveau de me dire tellement j'en rêvais que j'étais. Enfin. En fait, j'ai pas envie que ça paraisse pour truc prétentieux si tu dis oui, tu vois. C'est non, plus, non. C'est tellement j'en rêvais de me dire. Tu sais, c'est un peu avec toutes les phrases un peu bateau de. Si tu travailles à fond, ça marchera, si tu t'investis et tout. Et c'est un peu ce truc-là de j'en rêvais beaucoup et je lâchais jamais rien et je me suis dit, bah, pourquoi ça marcherait pas, tu vois. Mais après, je te dis ça, tu vois, j'ai fait 8 ans de vidéos où ça faisait 100 vues, tu vois. Et ça me dérangeait pas, genre, en fait, c'était un peu ce truc-là aussi. Je pense que dans ma tête, c'était, même si ça marche pas, je regretterai pas parce que j'avais envie de faire des vidéos et je suis trop content, quoi. Dans tous les cas, j'adorais faire une vidéo, tu sais, je faisais déjà une vidéo par semaine et tout. Bon, c'était des sketchs, c'était un peu plus court et tout. Mais j'adorais tellement faire ça que je me suis dit, même si ça marche pas, bah, j'aurais kiffé et c'est pas grave, quoi. Mais en même temps, j'étais. Je concevais pas le truc où ça marchait. Je concevais pas l'univers où ça marchait pas, en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment pas prétentieux quand je dis ça. C'est juste.
Ah non, mais ça se ressent pas.
Je me suis dit, vas-y, j'ai vraiment envie de. J'ai tellement envie, en fait, que vas-y, ça a marché, j'espère.
Est-ce qu'il te reste des youtubeurs français avec qui t'as pas fait de feat que t'aimerais bien. Faire?
Alors, sur ma chaîne, oui, pas mal. Ouais, beaucoup. En fait, mes youtubeurs préférés, moi, c'est McFly et Carlito. J'ai fait des feats, mais sur leur chaîne, sur ma chaîne, pas,
ouais, sur le podcast,
pas encore.
Ouais.
Et un autre gars aussi dont je suis fan, c'est Mister V.
Okay.
Bon, Mister V, pour le coup, il fait moins des vidéos un peu que divertissement comme je fais, etc. Il en fait un peu, mais lui, c'est vrai que je suis tellement fan que j'aimerais trop. Mais en fait, il y a plein de gens avec qui j'aimerais trop faire des feats. Tu vois, même hors youtubeur, il y a plein de gens, des artistes, des chanteurs, des acteurs ou quoi. Tu sais, j'étais tellement, quand j'étais petit, j'ai regardé tellement plein de trucs à la télé. Dans plein de médias, tu sais que je suis fan de plein de gens. Enfin, non, pas fan, parce que du coup, je trouve que tu perds un peu la valeur du mot fan si tu dis ça. Mais je suis tellement admiratif de plein de gens. Et tu sais, il y a plein de gens, genre des chanteurs ou quoi, avec qui je peux faire des vidéos ou à qui j'aimerais en faire. Et même si j'étais pas fan d'eux, de me dire, ah ouais, c'est fou, j'en fais avec eux, c'est incroyable, tu vois. Et c'est plus ce truc-là. Donc en fait, il y a plein de gens, la liste est trop longue.
Okay, t'as des petites anecdotes avec des gens que tu te considérais comme fan que t'as rencontré
Alors. En fait, là j'ai un truc qu'on a tourné il y a 2 jours, mais je peux pas le dire parce que quand ça sortira ça sera pas encore sorti.
Okay.
Enfin, ça sort dans longtemps et c'est pas sur ma chaîne.
Sinon, je peux bipper le nom.
Tiens, tu sais quoi, vas-y, bip le nom.
Ok, je bip le nom.
Ok, en fait, donc c'est une vidéo pour la chaîne de Pierre. Et en gros, il y avait. Là, c'est bipé. Désolé pour les gens, c'est bipé. Vous verrez, vous repenserez, ça sort je crois fin août. Vous verrez, okay, ce truc-là.
Petit teasing.
Et en fait, c'est une personne où je suis pas spécialement fan, tu vois. Mais j'écoutais ce que la personne faisait en termes de musique. Alors en musique, je dis pas c'est il ou elle, la personne, je veux dire. Je voyais ce que la personne faisait à la télé via les musiques et tout. Et même sans être fan, je me suis dit, putain, c'est fou de voir cette personne en vrai. Et en plus, donc dans la vidéo, il y a bon, je te raconterai après si tu veux, mais il y a un passage un peu cool et j'étais là en mode, ouais, c'est petit rêve de gosse quand même. Même si je suis pas fan de la personne, me dire, c'est incroyable. C'est un peu le. Tu sais, moi, je suis un peu le mec qui. Tu sais, quand je vois des gens connus, je suis encore en mode, waouh, mais attends, ces gens-là, je les voyais à la télé, c'est fou. C'est un peu le campagnard un peu qui avait jamais vu de trucs un peu stylés.
Je pensais au Radostar de Oli, tu sais.
Ah, mais c'est ça. Ah, bah, c'est alors, ça. J'ai pas vu cette vidéo. C'est une vidéo là où il en parle,
c'est, il disait que c'était un peu un Radstar dans le sens qu'il allait parfois dans des restaurants côté juste pour rencontrer des célébrités, tu vois.
Ah,
parce qu'à chaque fois qu'il les voit, il est trop content.
En vrai, je sens qu'eux, ils en parlaient aussi, Bigfoot Oli. Et j'avais un peu ce truc-là. Et encore maintenant, tu vois, quand je vois même des youtubeurs que j'ai. Bah, tu vois, quand j'avais fait une vidéo sur la chaîne de Neoxy avec Wartech. Donc Anil maintenant sur YouTube, quand je l'ai vu, j'étais ça m'a rappelé tellement de souvenirs de quand je regardais toutes ces vidéos quand j'avais 11-12 ans. Tu sais, j'étais vraiment le fan de dire, wow, attends, il est là, c'est un truc de fou. Et tu vois, ça me le fait encore plein de fois et j'aime trop ce truc là parce qu'il y a tellement de gens en fait que je regardais soit à la télé, soit sur YouTube et tout, et de les voir en vrai, je suis toujours en mode, wow, attends, c'est un truc de fou en fait.
Mais surtout le nom que tu m'as donné là qui sera bipé du coup,
ouais.
C'est vrai que tu t'imagines pas voir cette personne dans une vidéo, quoi.
Ouais, c'est ça.
Elle a pas dû faire de vidéo avant YouTube.
Je pense pas.
Ouais.
Et du coup, tu vois, c'est vraiment, ça fait un truc de voir la personne en vrai. Et c'est un peu ce truc-là, bah, un peu comme Oli en fait. Alors, je vais pas jusqu'à aller dans des restos connus, mais ouais, je peux capter le délire et en vrai, il m'a donné une bonne idée. Mais non, quand même pas.
Il disait qu'il était abonné carrément, tu sais, au groupe Facebook de 17 personnes où en fait, t'as des gens qui travaillent dans des hôtels qui disent, ah, telle personne, elle a réservé
telle
chambre, donc si vous allez dans le lobby, il y a des chances que vous la croisiez à telle heure, tu vois.
Ah ouais, c'est marrant. Alors. Ah ouais, je comprends de ouf. Et en vrai, je pourrais presque quand même pas, mais ça me fait un peu ce truc-là et je comprends de ouf.
Ok, on a tous un petit côté, je pense, comme ça.
Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, mais ça fait toujours un peu rêver. Donc il y a tellement de gens, la liste des gens avec qui j'aimerais faire des vidéos,
okay.
c'est, hyper longue.
C'était quoi le concept de cette vidéo? Tu peux le...
Non, je dirais la surprise pour le coup. Okay. Parce que justement, comme ça sort dans longtemps, c'est un gros truc pour, ouais, pour Pierre, donc je laisse la surprise.
Ah oui, d'accord, c'est pour la chaîne de Pierre.
Ouais, c'est ça.
Ah ok, c'était pas pour
ça. Je participe à la vidéo, du coup.
D'accord, ok, ouais, on va pas spoiler. Ok. Est-ce que t'aurais la ref de ces chaises là? Parce que je trouve elles font très.
Elles sont cool, hein?
Très PDG en fait.
Je sais pas, je connais pas la ref, mais très sympa.
J'ai l'impression qu'on fait une réunion très importante. En fait, on est assez chill.
Non,
tu
ça
vois.
Va, ouais, je te confirme. On a un micro comme ça, on est bien. Rien d'info autour. Ouais. Il y a un panier de basket et tout,
même,
ça va.
Même pour moi, tu sais, je te pose des questions, mais ça me fait bizarre d'être ici. Enfin, c'est marrant, ah ouais, ça, j'ai vu le setup dans des vidéos, donc j'ai l'impression d'être dans la vidéo là-dessus.
Ah ouais, c'est marrant. Bah ouais, ça me fait ça aussi des fois quand je suis sur des décors d'autres youtubeurs.
Ouais, mais il manque que Fred en fait.
Ouais, c'est vrai. Et là, il rigole.
Pour faire la...
Ah, on fait pas de vanne dans sa vidéo, donc il rigolerait pas beaucoup. Mais...
non, mais du coup, bah, c'est cool. J'aime bien poser une question aussi que je pose. C'est un peu la question d'introspection que je pose à tout le monde.
Ah, le téléphone qui vibre en même temps. Ah. L'appel en même temps.
Bon, là, je vais pas biper parce que c'est un pote, Maxime.
Maxime, j'ai jamais appelé pendant ton
tournage. Maxime, je t'ai dit. En plus, Maxime, tu sais que je suis à Maison Grise. Maxime, c'est un meilleur pote, ça passe.
Ouais, ça, pardonnez, on pardonne.
T'es pardonné, Maxime.
On pardonne ton meilleur pote.
J'aime bien poser la question. C'est quoi la dernière chose que t'as faite qui t'a fait peur?
Qui m'a fait peur? Alors le passage dans la vidéo avec la personne là.
D'accord. Ok, bon.
Parce qu'en vrai, maintenant j'ai plus trop de pression quand je fais des vidéos. Même, tu vois, j'avais fait deux vidéos avec des personnes hors YouTube. Il y avait Kinvey et Soprano. Deux vidéos différentes. Et tu vois, j'avais un peu la pression quand même. Surtout la première fois c'était avec Kinvey. Parce que, donc. Enfin, déjà quand j'ai pu faire la vidéo avec lui, j'étais trop content. Je me suis dit, ah ouais, ça va être trop bien, il a l'air grave bon délire et tout. Et en fait, je l'ai jamais parlé avant la vidéo. En fait, il est arrivé sur le lieu du tournage. Et on s'est un peu découvert en même temps, et un quart d'heure après, le tournage commençait. Moi, ça me dérange pas, je pense qu'il y en a, ils peuvent pas être fans de ça parce qu'ils aiment bien connaître les gens avant le tournage. Moi, je suis au contraire, j'aime trop le mood de dire, ok, on se découvre en vidéo, et les personnes qui regardent la vidéo découvrent en même temps ça, tu vois. Et je trouve ça trop intéressant. Et du coup, j'avais un peu la pression de me dire, ok, comment ça va donner? C'est quand même une star, tu vois, c'est pas comme quand on fait des vidéos avec nos potes sur YouTube. Donc ça met un peu la pression, mais je l'avais plus trop après. Même avec Soprano, Soprano en fait j'avais quand même un peu la pression. Et là du coup avec la personne en question de la vidéo de Pierre, ça a vraiment fait peur. Enfin, c'est quoi, j'ai l'extrait, je te montre après. Désolé pour les gens, c'est frustrant. Mais j'ai tout le truc, je peux te le montrer après
okay.
Si tu veux.
Mais je vois ce que tu veux dire, en fait tu sais pas, si ça se trouve elle est timide cette personne, tu vois, tu...
Donc, ouais, ou juste que...
Et non, t'as envie qu'elle soit à l'aise aussi, j'imagine, ouais, c'est un dans
peu
la
ça.
Vidéo.
Donc, ah bah là pour le coup de Kinvey Soprano c'était un peu ça.
Ouais.
Tu sais pas trop à quel point les gens vont être dans le même délire, parce que tu sais nous on est, pour Kinvey on était déjà 3 ou 4, je sais plus, tu sais un peu classique, il y avait Camille, Gizzy et Vincent, donc on est très potes, on a nos habitudes etc. en vidéo. Et tu rajoutes une autre personne et tu sais pas trop, tu sais, qui est habitué plus au format télé un peu promo habituel. Au final, tu sais, ils ont kiffé les deux Kinvey Soprano, justement, ça allait changer un peu des cadres de promo habituels. Donc, ils étaient contents et en plus, les deux étaient adorables à fond et tout. Mais c'est vrai que sur le moment, tu es en mode, attends, comment ça se passait? Tu sais pas, c'est vraiment le truc. Moi, j'étais petit là, tu sais, ils arrivent et tu sais pas comment tu vas faire en fait. T'sais, tu dois animer le truc avec eux, quand même être, tu sais, que c'est une vidéo avec une ambiance un peu normale, divertissement, on est marrant et tout. Donc, c'est un peu stressant, mais j'aime trop ça.
Okay.
C'est stressant, mais c'est vraiment tout le stress que je kiffe, tu vois.
D'accord, mais c'est vrai que ça te met. T'as dû prendre l'habitude à force de faire des tournages, comme tu fais beaucoup de tournages à plusieurs, t'as forcément.
Ouais,
t'apprends à gérer aussi l'énergie de chacun ou le.
Ouais, exactement, ouais. À capter un peu si à quel point tu peux aller dans le second degré avec telle ou telle personne,
ouais,
à quel
ça,
point tu peux faire le truc ou quoi. Mais okay. Alors, je sais pas si c'est vraiment la peur que t'entendais là. Enfin, c'est plus du stress que de la peur, ouais.
Un petit track, ouais.
Ouais, c'est un peu ça. Et peur. Si, j'ai regardé une vidéo, je sais plus quel youtubeur. Si, c'est Inox, ça n'a rien à voir.
Okay.
Inox, mais c'est plus de la. Il faisait une vidéo, il allait acheter un crapaud, je crois, ou une grenouille, je sais plus. Et il est dans un magasin où t'as un peu des reptiles et tout. Et à un moment, il montre un serpent à la cam.
Ah, t'as peur des serpents, t'as la phobie des serpents.
C'est la première fois que j'ai eu peur derrière l'écran. Je pense que plus le temps avance, et j'ai une énorme phobie des serpents.
Ah, c'était pas dans la vidéo?
Ah non, pas du tout. J'ai regardé la vidéo sur mon téléphone. Et en fait, tu sais, généralement, j'ai passé vers la fin. Et d'un coup, poum, ça me met sur un serpent. Et en fait, j'ai une énorme phobie, mais une vraie
oui,
phobie
oui.
Maladive de ça. Et plus le temps avance, et pire, c'est. Là, je l'ai vu à travers l'écran, et vraiment, j'ai quitté la vidéo, tu vois.
Parce qu'ils t'ont déjà ramené des serpents ici pour des tournages,
ouais,
tu
ouais,
les avais en vrai.
Bah, en fait, je sais pas d'où ça vient, la phobie des serpents. Là, ouais, quand ils avaient ramené en vrai, tu sais que. Peut-être je l'ai raconté dans une vidéo ou quoi, mais c'était une vidéo de Camille, où en gros, il fallait affronter nos phobies et tout. Et donc, ils ramènent un serpent dans le studio du bas. Donc déjà moi j'étais fou en fait, je pouvais même pas le regarder dans les yeux et tout. Et mais c'était un petit truc derrière dans une cage, enfin pas une cage mais c'est une
ouais. Oui, un de le terrarium, ouais.
Et Et tu sais, c'est vraiment la réaction naturelle où ça me fait pleurer en fait. Mais tu sais, c'est limite comme une réaction allergique. Tu sais, c'est genre ça allait bien, j'étais pas triste ou quoi, mais c'est juste ça me fait naturellement pleurer. Et je me barre de la vidéo. Et après, je m'en souviens, je suis venu genre 15-20 minutes ici, seul dans le studio pour m'en remettre. Genre, j'étais vraiment, ça m'a. Ouais.
Et en plus, ils t'ont entendu, ils t'ont fait croire que le serpent était parti.
Ah oui, ça c'était avant. Ça c'était avant, je suis revenu. J'étais déjà trop mal et c'est horrible. Et okay. Je pense que ça fait vraiment la peur en vidéo, tu vois, je l'ai vu.
D'accord, ok. Et ce serait quoi le...
Oh là là, nouvel appel de Maxime ou pas?
Ah, c'est ma sœur. Attends, mais mec, je reçois pas des... On va croire que je reçois des appels toutes les...
C'est un vrai businessman.
Non, même pas. Bon, bah, t'es aussi dans le podcast. Hein.
Oh, il gratte un fit en
vrai. Non, j'ai bipé le nom de ma sœur, par contre, j'ai dû penser.
Ah, merde.
J'aurais deux bips à faire.
Aïe.
Là, une question que j'aimerais bien te poser aussi, c'est j'ai quand même vu, et je te le dis franchement parce que j'ai vu une belle évolution dans tes vidéos.
Ah, c'est gentil.
Même en 2020, pour moi à l'époque, t'étais un youtubeur. Alors, tu m'as dit ton évolution du nombre d'abonnés qui était quand même assez folle cette année en 2020.
Ouais.
Mais donc, je pense que quand j'ai dû tomber sur ta vidéo Ticket à gratter ou une de tes vidéos que j'ai vu à ce moment-là, t'étais dans ma tête déjà un gros youtubeur, tu vois.
À l'époque, ah bah non, du coup, non.
Ouais, et il y a déjà.
Pas
eu...
même maintenant, je pense que je me considère pas vraiment gros youtubeur. Enfin, bah. Je sais pas, c'est tellement subjectif, tu vois. Mais...
Bah si, moi je trouve que moi je te considère comme un gros youtubeur et je dirais que j'ai vu une grande évolution et je sais pas si tu te considères timide ou introverti, mais au début on sentait un petit peu de timidité dans les vidéos et maintenant quand on voit ta progression, je me demande juste quel est ton conseil à toi pour les personnes qui se lancent sur YouTube, tu vois, et qui ouais. se sentent pas à l'aise face à la caméra au début. Comment est-ce que
en gros,
t'as réussi à progresser?
Bah moi je me suis considéré timide quand j'étais petit au collège et tout, tu vois. J'étais vraiment, je pense, timide. Bah avec mes potes ça allait et tout, mais socialement avec d'autres gens ultra timide, tu vois. Et quand je commençais les vidéos c'était pareil. Après je pense que là par exemple quand tu prends l'exemple de 2020, en fait ce qui était un peu différent c'est que c'était plus un peu la pression de se dire quand je tournais par exemple avec Pierre, Ben, Guillaume et Fred, tu sais, t'es avec 4 mecs qui ont 35 piges, qui se connaissent par cœur, qui sont très bons dans ce qu'ils font, dans les vannes et tout. Et tu sais, t'arrives là, t'es un peu le seul jeune, enfin tu vois, au début c'était un peu ça. Non, notamment la première vidéo que j'avais faite sur la chaîne de Pierre. Je parle pas du truc en tant qu'abonné, mais en youtubeur, c'était un truc autour du foot. Et on était 8 dans la vidéo, et t'avais genre t'avais Pierre, Fred, Ben, Guillaume Play, t'es que des mecs qui ont une carrière dans le milieu et tout, qui avaient 10 ans plus que moi minimum. Et tu sais, t'es un peu stressé, et du coup, t'es naturellement un peu timide par conséquent, tu vois. Donc là, dans les vidéos un peu comme ça, c'est vrai que c'était un peu dur au début de se faire sa place. Bah, tu sais, t'as tellement de gens, et en vrai, c'est dur, peut-être qu'on se rend pas compte, mais. Tu sais, t'es dans une même pièce avec des gens qui ont l'habitude et tu dois faire rire des gens que tu connais pas à travers une caméra et du coup quand même poursuivre le délire, les vannes des autres gens et tout, c'est vraiment dur. Je pense que les gens ils se rendent pas trop compte, et au début en vrai on est arrivé à MG, on s'est pris un peu des commentaires avec Camille là-dessus parce que les gens ils disaient bah attends, ils servent à quoi ces gens, ils sont nuls. Et en fait c'est... Enfin je sais pas si on était nuls ou pas, tu vois, c'est juste que c'est tellement dur d'être à l'aise au début et de montrer ce que tu sais faire. C'est trop dur, tu vois, d'être à l'aise avec tous ces gens-là à côté. C'est ça, je pense, au début qui pouvait donner cet a priori un peu de timide ou de gêne.
Je pense que pour les gens, imagine, c'est comme si on te mettait dans une soirée avec ton grand frère ou ta grande soeur qui a 50 plus.
Ouais.
Et en plus, tous les gens de la soirée, t'es fan des gens de la soirée. Et tu dois faire rire les gens.
Ouais, c'est un peu ça.
Tu dois faire rire les potes de tes grands frères, quoi.
Par exemple. C'est. Ouais, c'est à peu près ça.
Mais je pensais, tu sais, même pas forcément. Parce que moi, tes premiers feats, je me souviens pas de tous tes premiers feats, mais je t'ai trouvé assez à l'aise quand même assez rapidement en voyant ton évolution, tu vois. Mais je pensais par exemple aux vidéos que tu faisais tout seul dans ta chambre, notamment tes sketchs avant, tu vois.
Ah oui, voilà.
Ce serait quoi tes conseils pour un gars qui débute et qui, voilà, il est dans sa chambre et il est pas à l'aise à la caméra?
Ben, en fait, le truc tout con, c'est ça vient avec l'expérience, moi, je crois. C'est que au début, moi, ce qui est un peu fourbe, c'est qu'au début, c'était des trucs écrits, donc tu sais, je récitais un peu un texte. Donc au début t'es forcément timide et quand t'es seul devant la caméra, tu répètes 10 fois la même phrase, t'es pas satisfait de toi et tout. Je pense un vrai truc déjà, c'est, alors ce qui est très dur mais c'est la vraie étape pour franchir ça. Là tu parles uniquement pour les créateurs qui sont timides ou pour la timidité en général?
Je pense que n'importe qui est timide devant une caméra au début.
Je pense le mieux c'est l'étape de t'as quelqu'un derrière la caméra qui te regarde.
Ok.
C'est dur mais faut quelqu'un de confiance, donc soit tu prends tes très bons potes.
Mais du coup faut des potes.
C'est un truc, c'est malheureusement un truc important. Et encore, je faisais avec mon frère, tu vois, c'est mon frère qui,
c'est vrai que...
à une étape, à un moment, pardon, celui était derrière la caméra et celui qui me disait, donc tu sais, je récitais ligne par ligne ce que j'avais écrit, comme un sketch machin, et lui me disait, ok, bah attends, refais là plus vite, moins vite, ou je sais pas quoi, ça, c'était vraiment, c'était assez fou comme situation d'ailleurs. et du coup, ça t'enlève un peu une part de timidité là-dessus, parce que Enfin, tu sais, c'est un peu, d'un côté, c'est dur, mais il faut se confronter un peu à la difficulté pour te dire, ok, tu progresses, quoi. Donc, c'était un peu ce truc-là. Et après, franchement, j'ai pas trop de conseils, à part si c'est avec le temps et avec un peu l'assurance de dire, tu vois, faut faire l'effort un peu, tu sais, t'es en soirée, bah, t'oses aller parler à des gens. Et c'est un peu un conseil bateau, j'ai l'impression. Parce que quand t'écoutes ça, tu dis, bah, évidemment, c'est simple de dire ça, mais c'est le vrai truc au final, faut tenter les trucs. Et au fur et à mesure, tu sais, t'as un peu cette peur en moins, cette appréhension en moins, et du coup, tu deviens un peu moins timide. Et après, l'autre vrai conseil, je pense, c'est le théâtre, les trucs comme ça.
Ok.
Où t'es obligé, en fait. Le théâtre, ça qui est cool, c'est que tu vas dans une troupe, t'es obligé d'être. On t'oblige à pas être timide. Enfin, non, on t'oblige à faire l'exercice, et du coup, naturellement, la timidité s'enlève. Alors que quand t'es seul devant ta cam, et que t'as quelqu'un derrière toi, si t'es trop timide et que c'est à toi que ça appartient le choix, tu peux dire, bah, attends, je le fais pas. Et alors que si ça t'impose, certes, c'est dur, mais au moins, tu progresses vite, quoi. C'est un peu ce truc-là, okay. Je crois.
Donc, répétition, apprentissage, ouais, par la répétition, et s'engager aussi, donc, vis-à-vis d'un théâtre, enfin, d'une...
Soit ou même juste, en vrai, c'est un... au quotidien, quoi. Essayer, ouais, de faire les trucs, des petites démarches. Voilà, je t'ai tapé le pied en même temps, désolé, vous voyez pas ça en dessous.
Il y a pas de caméra en dessous.
J'ai massacré le pied, en fait. je pense, ouais, avec en osant faire des choses, mais j'avoue que c'est peut-être pas le meilleur conseil, parce que c'est un peu bateau.
Mais même le conseil que tu disais bateau, je pense qu'il faut répéter les conseils bateau jusqu'à que les gens les prennent en considération, tu vois,
c'est
parce
ça,
qu'ils sont grave sous-estimés, les conseils bateau. On attend toujours des. Même moi, quand j'ai commencé YouTube il y a quelques années, je me rappelle que je cherchais la petite astuce qui allait me faire changer de dimension, alors qu'en, ouais, fait, non, fallait juste répéter.
Et bah, c'est un peu ce truc-là, ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, les conseils bateau, c'est un peu les trucs de. Tu sais, quand t'as un mec qui te demande, tu donnerais quoi comme conseil pour être youtubeur, machin, et tu dis, bah, fais ce qui te plaît, c'est évident. Bah oui, bien sûr, tu vois, c'est évidemment trop bien, et c'est le vrai premier conseil. Mais tu vois, quand t'es la personne, tu te dis, oui, bah, je le sais, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est un peu logique.
Peut-être qu'en fait, quand tu commences, t'as pas besoin de conseils, t'as juste besoin d'allumer ta caméra et de,
bien
et
sûr,
de faire,
ah oui,
tes premières vidéos.
Ah bah, quand tu commences, c'est sûr, faut tenter plein de trucs, et faut se dire, au début, j'ai commencé. Faut conscientiser le truc que vas-y, je vais être un peu nul. Enfin, faut se dire ça au début.
Ouais, non, mais c'est vrai. Hein.
Et c'est pas grave, tu vois, c'est ça.
Faut accepter sa nullité et.
Bah, en fait, je pense qu'il faut être conscient de se dire, même si je suis bon, nul, je sais pas si c'est le bon terme, mais même si je suis pas bon, c'est normal, tu vois. Je pense que tant que t'es conscient des trucs dans la vie, c'est pas grave, je trouve. C'est un, ouais, peu. Bah, en fait, d'ailleurs, c'est un peu une morale de tout ce qu'on a dit, je pense, jusque-là. De, par exemple, pareil, le truc du téléphone, tant que t'es conscient. Que c'est pas normal, enfin, que c'est pas normal, enfin, là je vais pas refaire le débat, mais tant que t'es conscient qu'il y a un truc qui va pas, que ça va, etc., tant que t'es conscient du problème, je trouve que ça va. Ouais. En général, dans la vie, faut toujours conscientiser les trucs, tu vois.
Après, moi je dis nul parce que moi, quand j'ai commencé, je me disais non, t'es nul aujourd'hui, parce que moi je me permets de dire ça de moi, tu vois, mais c'est vrai que peut-être que c'est pas le bon mot à utiliser pour d'autres personnes, faut,
oui,
pas,
oui,
que je dise que
c'est nul, c'est un peu cru, on, ouais, sait, entre nous, mais tu vois, ouais, inexpérimenté, si on préfère alléger un peu le truc. Mais c'est normal, quoi, faut tenter et ça va. De toute façon, tu progresses forcément dans tout. Il y a personne qui a commencé un truc en étant fort, pareil YouTube. Enfin, je pense que tu auras tous les youtubeurs actuels. Là, quand je dis un tu, je parle en général à la personne.
Ah,
je sais,
tu m'as fait peur, vrai,
mais et je pense que merde, quel moment d'émotion, oh, quel gaffe. Je pense que tout le monde a tous les youtubeurs actuels. Ils ont commencé en étant pas bons, en fait. Enfin, c'est normal, tu vois.
C'est pour, ouais, ça que parfois, moi, je me comparais première vidéo des youtubeurs. Quand moi, je faisais mes premières vidéos, j'allais sur la chaîne YouTube de quelqu'un. Je mettais toutes les vidéos la plus ancienne.
Ah ouais.
Je cliquais sur la plus ancienne et je me comparais à ça, tu vois.
Parce, ah, que c'est marrant, ouais.
Bah ouais, parce que sinon, si je me comparais à ce que font les youtubeurs actuellement, par exemple, moi je commence YouTube maintenant, je regarde ta vidéo, toi maintenant, celle qui sort, la prochaine qui sort, ouais, je fais. Ou alors même, je me rends même pas compte en fait de tout,
ouais,
ce qu'il y a derrière, c'est... donc c'est démoralisant, donc je pense qu'il faut se.
J'avoue que c'est une bonne astuce, ça, hein, ouais. Genre les premières vidéos des youtubeurs, il y a encore que, tu sais, des fois, il y a des youtubeurs, ils avaient d'autres chaînes, etc.
Ouais.
Donc c'est pas.
Mais déjà, normalement, si tu vas dans les premières vidéos, c'est ce que je recommande, aller voir nos premières vidéos.
Ah oui,
et comparez-vous à ça, tu vois.
Vous allez vous rassurer, regardez mes premières vidéos. Et encore, moi, sur Lucas Studio, c'était pas mes premières, tu sais, j'avais commencé,
oui,
4-5 ans avant, donc je vous rassure, vous inquiétez pas.
Ok.
Mais ouais, faut tenter, faut s'entraîner et tout.
Ok.
C'est avec l'entraînement, quoi.
Mais en tout cas, je trouve que t'es un bel exemple de ça, de progression, d'amélioration constante. Je trouve que tu te renouvelles beaucoup. J'en parlais à PA hier parce qu'on a parlé je trouvais que t'avais un game. Très bon game YouTube, tu vois, le game YouTube, donc ça c'est pareil, pas tout le monde va comprendre les termes, mais un game, tu maîtrises bien les titres, les miniatures, le rythme de la vidéo et tout, donc c'est cool que tu puisses en parler, et bah, je suis très content de t'avoir eu sur le podcast aujourd'hui,
beaucoup,
tu vois. Donc,
Et en vrai, c'est un vrai truc aussi, mais ça c'est plus un truc pour les jeunes, notamment qui veulent se lancer sur YouTube, les jeunes, je pense plus au collège, lycée et tout, c'est genre, ouais, vraiment, si vous avez envie de tenter de fou, parce que moi je pense qu'il y en a plein des gens de mon collège ou quoi qui voient maintenant que je fais des vidéos et. et ce que je fais et tout, et qui t'aide à se dire, mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, genre à l'époque, tu sais, j'étais ultra timide, je faisais rien. Tu sais, c'est un peu quand t'es au collège en plus, tu sais, quand tu montes tes vidéos, enfin, quand les gens tombent sur tes vidéos plutôt, t'as un peu la honte et tout. Et c'est un vrai truc de faut pas trop se fier à ça. Et faut vraiment tenter si vous avez envie de faire ça, mais vous dites, ouais, mais je suis timide, j'ose pas, je sais pas quoi. Vraiment tenter si vous avez envie, parce que sinon, vous allez regretter plus tard. Il faut vraiment tenter dans plein de trucs. C'est un peu la morale bateau aussi, mais c'est un vrai truc de faut pas regretter, tenter à fond tout ce que vous voulez faire. Et peu importe dans le domaine, c'est que là, on parle beaucoup des trucs un peu classiques, entre guillemets, qui font un peu rêver pas mal de gens, que ce soit le domaine artistique, etc. Mais je prenais l'exemple en début de podcast sur l'ébénisterie. Mais genre vraiment, si vous avez envie de ça, mais tenter à fond, faut vraiment vivre sans regret et faire à fond tout dans la vie, quoi.
Mais du coup, on précise que la vidéo est sponsorisée par la Fédération française
des bénisteries, justement. Merci à eux. Je sais pas pourquoi je fais cet exemple, mais c'est vraiment, je crois, un bel exemple.
Oui,
un très beau missionnaire.
Il n'y a pas de passion, enfin, les passions se valent, quoi.
Ah, vraiment, c'est vraiment donc, ça. Et tu vois, même quand on parlait un peu de trucs de équilibre vie pro, vie perso et tout, tu vois, moi j'ai des potes, ils s'en foutent totalement de réussir d'un point de vue pro, machin. Tant qu'ils ont leur vie perso à côté, ils sont très contents. Et tu vois, il y a vraiment, mais chacun mène sa vie comme il veut. Et vraiment, c'est vraiment zéro jugement là-dessus. Et c'est trop bien de. Et justement, c'est trop bien qu'il y ait un équilibre de plein de gens qui vivent différemment. Et tant que tout le monde est content, c'est trop bien, quoi.
Ok.
Moral et... bateau aussi, mais c'est. mais moral bateau, mais qui est vrai en fait. C'est vraiment ça.
C'est comme les conseils des parents qui te donnaient quand t'étais petit, tu vois.
Ouais, parce que tu veux.
Ouais, ils donnaient plein de phrases. Tu fais ouais, ok. Puis après, tu grandis. Puis tu te rends compte que c'est des bons conseils la plupart du temps.
Bah ouais, ils te les donnent quand ils ont 40-50 ans de vie, donc voilà. D'expérience. Et c'est ça. Et encore, tu sais, c'est encore, je pense, mieux les grands-parents. Les grands-parents, s'ils donnent des conseils.
Encore
quand
plus
t'es
de sagesse. Là, il y a deux générations de sagesse.
Mais ouais, mais c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. C'est ces gens-là, en fait, c'est eux qui ont raison, quelque part.
C'est comme
pas tous,
ouais.
Mais tu vois, sur des trucs de vie, des exemples de vie concrets, je trouve que t'as un peu ce truc-là de. Bon, pas pour tout le monde, mais t'as un peu de sagesse, de recul de la vie. Ils ont vécu tellement de trucs que nous on n'a pas vécu, que même si pour l'instant on refuse d'admettre certains trucs qu'ils nous disent, je pense qu'à leur âge on se dira, ah, ils avaient raison.
Ouais.
Dommage qu'on les pas écouté avant, tu vois.
Ouais, on prend pas leurs conseils pour gérer une chaîne YouTube et tu vois, avancer là-dedans.
Plus dur, ouais.
Mais c'est vrai que dans la vie perso, tu peux prendre quasiment tous les enseignements, ils sont quasiment tous bons parce que.
Bah, faut toujours relativiser avec du recul parce que je pense que tu vois, même un gars de 75 ans, il peut pas être objectif sur plein de trucs qu'il a vécu. Mais je pense que t'as des trucs un peu universels que beaucoup de personnes âgées te disent et qui faut admettre que c'est vrai, quoi. Même si ça paraît bateau ou quoi, c'est
ouais.
A priori, je pense que c'est vrai, tu vois. Et on s'éloigne totalement de ce que je disais, mais bref, kiffer à fond et voilà.
Ok, bah c'est un bon message et puis j'espère que ça pourra inciter des personnes à se lancer sur YouTube si elles ressentent ce besoin, tu vois, de se lancer sur
ouais,
YouTube
ouais.
Parce qu'il y en a beaucoup mine de rien qui aimeraient bien tenter l'aventure.
C'est ça, bah tenter à fond et si ça vous fait plaisir de faire des vidéos, faites-le vraiment.
Ok, et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'année 2022, le million ?
En termes de chiffres, on va dire ouais, le million, forcément, ça serait cool. Et puis juste d'être heureux dans la vie, hein. D'être heureux à tous les points, c'est ce que je veux.
D'accomplir
être
des
heureux
rêves
en
de
vie
gosse.
Pro et en vie perso, ouais. Ça, c'est plus rêve de gosse, bien sûr. Et non, franchement, bateau, mais être heureux en vie pro, en vie perso, c'est l'objectif de tout le monde.
Okay.
Je vais viser ça, quoi, on va dire.
Bah, je te souhaite ça, mec. Je te souhaite une très très bonne année 2022.
Bah, merci à toi aussi, mec. Vraiment.
Je vais suivre ce que tu fais, tes concepts, parce qu'ils sont toujours bien et tu te renouvelles bien et tout. Comme je te disais, tu maîtrises bien tout ça, tout ce qu'il faut.
Bah, c'est gentil.
Donc, bon courage à toi pour la suite.
Mec, puis... à toi aussi, franchement. Bah, j'écouterai les prochains podcasts aussi avec plaisir.
Ouais.
Vraiment. Et merci à toi de l'invitation. Franchement, j'ai kiffé parler de ça. Et ça fait combien de temps qu'on. Une heure et demie ?
Une heure et demie, ouais.
Une heure et demie, une heure et demie. J'aurais pu parler 6 heures, donc si vous voulez qu'on reste 4 heures et demie, je le fais. Mais j'adore parler de plein de trucs comme ça, donc merci à toi vraiment.
On fera un deuxième épisode avec plaisir si tu veux.
Ah bah, moi je suis trop chaud.
Là, c'était la présentation et puis des petits sujets intéressants comme ça, mais ouais, très cool d'avoir discuté de ça.
Avec plaisir, je suis trop chaud.
Et puis, écoute, bonne fin de journée à toi. Bonne écoute, bonne fin de semaine à toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis, nous, on se retrouve jeudi prochain dans le prochain épisode. Salut Lucas. Et puis, à la prochaine.
Salut à tous.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.